J'ai réalisé ce schéma pour représenter cette vision institutionnelle des systèmes universitaires. Les espaces nationaux et internationaux sont ainsi appréhendés comme étant fortement hiérarchisés, puisqu'on se situe dans un registre vertical où les best practices qui sont identifiées et appliquées s'appliquent du haut vers le bas. Donc cette littérature encourage premièrement une approche biaisée des institutions qui apparaissent comme homogènes, sans visage, sans histoire. Deuxièmement, cette approche arbore une vision mécanique, verticale et hiérarchique des réformes, où les agendas s'imposeraient du haut vers le bas. On assisterait ainsi à une appropriation parfaite de modèles exogènes, où l'espace national semblerait adopter intégralement les prescriptions et recommandations. Donc mes recherches montrent que cette perspective est biaisée et ne décrit pas la réalité de la dynamique des circulations des modèles. Les connexions doivent plutôt se lire au regard de leur fluidité, des intérêts de chacun, des stratégies d'acteurs et de l'historicité propre de chaque pays. Les universités est-africaines, sous couvert de fortes logiques de convergence, ont leur propre singularité, leur propre histoire et leur propre mémoire. On aurait tort de croire qu'on assiste à une simple application pratique d'un agenda emprunté ou imposé par l'extérieur. Donc, l'objectif n'est pas de sous-estimer l'importance des acteurs internationaux dans les transferts de modèles, mais plutôt de reconstruire l'articulation nationale-internationale en repensant le rôle de l'État, l'homogénéité présumée des institutions et en reconsidérant l'articulation hiérarchique des espaces. Donc, j'ai donc réalisé un deuxième schéma donc qui illustre la manière dont je pense mon objet de recherche, c'est-à-dire dans la différenciation de différents espaces, dans la différenciation des structures universitaires et dans l'identification de processus retravaillés. En fait, les systèmes éducatifs se structurent par des hybridations de financement qui complexifient l'analyse par la multiplication des grilles et des échelles de lecture et l'accroissement des acteurs impliqués. Cette approche permet de mieux comprendre à la fois comment circulent les modèles internationaux et comment les espaces nationaux peuvent les filtrer. Pour appréhender l'articulation des transformations de ces espaces, il convient donc par une analyse plus micro de mettre en exergue, la fluidité et la porosité de ces espaces, de réhabiliter les stratégies notamment carriéristes des acteurs, de souligner les jeux de pouvoir et d'influence entre les institutions, d'étudier les espaces de négociation et de médiation, tout en contextualisant historiquement ces espaces de transition pour comprendre comment, au final, les espaces récipiendaires absorbent, filtrent et se réapproprient ces modèles. Donc en fait, l'agenda est-africain de l'enseignement supérieur se construit en lien avec les exigences des institutions internationales, des bailleurs de fonds et tout un ensemble d'organismes et d'individus qui, par le biais de colloques et autres formations, structurent un savoir-faire technique et diffusent une certaine vision de ce qu'est, doit être et dit être l'université. C'est lors de ces échanges, qui consistent en la présentation et la familiarisation avec les théories dominantes, mais aussi au cours desquels les professionnels administratifs et académiques se rencontrent pour partager leur expérience, qu'un modèle de réforme émerge et se reconstruit continuellement. En travaillant sur ces espaces de la fabrique de la bonne réforme, c'est bien la fluidité des espaces qui interpelle, et notamment l'identification de ce qu'on pourrait appeler des acteurs passerelles, qui individualise le lien invisible entre les espaces nationaux, régionaux et internationaux. J'ai donc réalisé ce schéma pour illustrer cette convergence des parcours professionnels où la participation à des conférences internationales, des workshops et des programmes de recherche sont autant d'espaces de socialisation entre pairs, de mise en réseau des professionnels qui contribuent à la construction d'un agenda international et à la circulation de cette bonne pratique. Par exemple, David Kurt est l'un des experts qui a le plus publié sur les réformes universitaires en Afrique de l'Est pendant les années 70-2000. Il est l'auteur d'un papier maintes fois cité sur la réussite du modèle privatisé de l'université de Makerere. En fait, c'est quelqu'un qui a fait ses classes à la Rockefeller Foundation dans le bureau régional de Nairobi dans les années 70-90 avant de devenir expert pour la Banque mondiale. On peut également citer l'exemple de l'ancien vice-chancellor de l'université de Makerere, John Sebuufu, qui illustre bien comment les hautes fonctions administratives au sein des universités publiques peuvent être de futurs tremplins pour occuper des postes dans les organismes internationaux. Il est ainsi actuellement directeur des programmes de recherche et ancien secrétaire de l'AAU, qui est l'Association des universités africaines, et expert à la Banque mondiale. Donc c'est bien cette circulation des professionnels de l'enseignement qui permet ces formes de convergence cognitive. Cette mobilité des idées est également encouragée par le partage d'une culture académique commune. Ainsi, on remarque, en regardant les administrations des universités que j'étudie, une surreprésentativité des filières dites scientifiques parmi les postes de direction des administrations, des médecins, des chirurgiens, des vétérinaires, des ingénieurs. Ou encore, cette mise en réseau peut se réaliser par des passerelles qui prennent la forme de programmes de recherche ou de financement, comme le programme sur l'internationalisation universitaire. Donc en fait, c'est donc tout un ensemble d'espaces et d'individus situés à différentes échelles qui fluidifient la diffusion d'un certain type de savoir-faire et qui engendrent une normalisation des pratiques. L'une des modifications centrales adoptées sur nos campus d'études réside dans les transformations de la gouvernance universitaire. Alors en fait, initialement, les réformes universitaires entreprises à la fin des années 80 portaient sur une restructuration des modes de financement de l'enseignement supérieur. Les différents gouvernements de la région, ancrés dans une profonde crise économique, ont peu à peu laissé entendre qu'il était urgent que l'université publique développe de nouvelles stratégies pour répondre à la massification de l'enseignement supérieur. À ces transformations soudaines, donc induites avant tout par cet impératif économique, se sont conjuguées des réformes en termes de gouvernance, et selon les réformateurs, de bonne gouvernance. En fait, l'un des moteurs de la transformation des espaces universitaires réside dans toute une série de prises de décision qui s'inscrit dans la logique théorique dominante du nouveau management public. Ces réformes de gouvernance se structurent notamment autour de processus de rationalisation via des modes de contrôle déconcentrés. À Dar es Salaam en 2008 et à Makerere en 2010, les universités se sont restructurées en grands rassemblements collégiaux plus autonomes vis-à-vis de l'administration centrale. Les acteurs qui promulguent cette nouvelle forme de management affirment vouloir combattre les lourdeurs bureaucratiques et ces gaspillages. Pourtant, en fait, on assiste à la formation d'une nouvelle bureaucratie qui se met en place par des normes et non plus par des structures administratives classiques. Cette bureaucratisation des procédures est structurée par des techniques de quantification et d'évaluation, mise en place d'audits internes et externes, établissement de nouvelles normes, rédaction de nouveaux manuels, plans et autres programmes de développement chiffrés. En fait, on a un véritable fétichisme du chiffre et de l'évaluation qui se traduit par la mise en place de nouvelles contraintes bureaucratiques pour les enseignants. Ainsi, à l'université de Nairobi, les trajectoires des enseignants sont désormais régies par ce qu'on appelle le contrat de performance, qui rythme en fait les carrières et les promotions, et qui est en fait l'un des résultats concrets de tout un ensemble de procédures engendrées par l'adoption de la certification ISO 9001 à l'université de Nairobi à la fin des années 2000. La certification ISO se donne notamment à voir sur le campus par le florissement des inscriptions Vision, Missions and Values qui vantent les objectifs de l'université. On retrouve donc des notions comme la Good Governance, le Quality Customer Service. Donc en fait, on se situe bien dans une configuration où l'université se définit comme un prestataire de services où les étudiants sont des clients à satisfaire. Donc les universités est-africaines, sous couvert de fortes logiques de convergence, ont pourtant leur propre trajectoire, construite sur une histoire, une mémoire et un rapport à l'état singulier. On ne doit pas concevoir les transformations des systèmes donc comme une simple application pratique de prescriptions exogènes, mais plutôt repenser l'articulation analytique entre le local et le global pour comprendre comment le changement se construit à travers différents espaces, acteurs et registres. Les universités internationales et les bailleurs, en fait, ont identifié depuis la fin des années 90 le cas de l'université de Makerere en Ouganda comme le modèle régional. En effet, depuis la fin des années 80, l'université a adopté avec méthode le package de bonnes pratiques identifiées à l'international. La réforme la plus symbolique est celle de l'introduction de la politique du cost sharing ou partage des coûts, où les étudiants, en fait, doivent s'acquitter d'une partie ou de l'intégralité de leurs frais universitaires. Donc en 93, sur 7344 étudiants, on avait 6643 étudiants sponsorisés par le gouvernement. Seulement 3 ans plus tard, l'université compte 14612 étudiants et dont 7902 étudiants privés, soit plus de la majorité. Depuis 2001, en fait, l'université compte environ 30 000 étudiants, dont plus des 2/3 privés. C'est en fait le rapport en 99 de David Kurt, la personne dont je vous ai parlé plus tôt, qui va consacrer les transformations initiées à l'université de Makerere comme le modèle régional. Cette publication sera suivie par un rapport de la Banque mondiale sur le financement de l'éducation sur le continent qui présente l'université ougandaise comme un exemple de la bonne réforme. Ces deux rapports, publiés à 2 années d'intervalle, en fait, sont produits d'une stratégie de recherche et de construction de modèles de réussite, hein, ayant pour but de légitimer les politiques des organisations internationales et leurs recommandations qui ont été fortement critiquées durant les années 80. En fait, pourtant, la circulation du modèle de réforme universitaire ougandais reste relative. Tout d'abord, dans la temporalité même des réformes, puisque les universités kényanes et tanzaniennes n'ont pas attendu les expertises de 1999 et 2001 pour entreprendre de nombreuses transformations. On se situe donc dans la consécration d'un modèle régional a posteriori. Deuxièmement, il est intéressant de s'intéresser aux acteurs de la réforme. En effet, si l'université de Makerere est la première à avoir entrepris ces transformations à la fin des années 80, les responsables universitaires voisins ne se sont pas pour autant intéressés au modèle ougandais. Par exemple, en Tanzanie, Daniel Mkude, qui était un responsable administratif chargé de la réforme à l'université de Dar es Salaam, effectue plusieurs voyages, mais au Mozambique, en Zambie et au Ghana. En fait, les personnels administratifs universitaires, qui devaient faire face à la massification de l'enseignement supérieur avec des fonds limités, ont effectué différentes expertises pour apprendre d'expériences étrangères. Ces nouvelles formes de collaboration reposent avant tout sur des affinités qui facilitent les contacts et les échanges. On est alors en fait très loin de la mise en place uniforme d'un modèle imposé par les institutions, mais plutôt en présence de la mise en place d'espaces bricolés. À l'université de Makerere, c'est le professeur Oswald Ndolerire, alors doyen de la faculté des arts, qui entreprend au milieu des années 90 une importante restructuration de sa faculté pour attirer de nouveaux étudiants privés et dégager ainsi des fonds propres via l'introduction de cours du soir et du week-end, la mise en place d'un système donc de partage des coûts pour ces nouveaux étudiants et la réorganisation des programmes pour satisfaire ces nouveaux étudiants privés. Cette initiative sera ensuite généralisée sur l'ensemble du campus. En fait, dès 2002, l'université de Makerere dégage un financement propre supérieur au budget alloué par le gouvernement grâce aux étudiants privés, puisque sur environ un budget de 33 millions de dollars, 17 millions de dollars sont directement issus des frais universitaires, donc dès 2002. L'université de Nairobi a quant à elle entrepris tout un merchandising de ses activités. Appelée à s'autonomiser du budget du gouvernement pour faire face à la hausse des effectifs, l'administration universitaire a déployé tout un arsenal pour répondre à ces nouveaux enjeux. L'introduction des modules 2 et module 3, qui sont en fait la possibilité pour l'université d'inscrire des étudiants privés et à distance, la mise en place des cours du soir et surtout en fait la création de l'UNES, qui est le University of Nairobi Enterprises and Services, et en fait qui a permis de renforcer la centralisation de l'ensemble des activités de l'université et des revenus autour de l'administration centrale. En fait, dès 2003, 55% du budget de l'université de Nairobi est issu des activités de l'UNES. En fait, si les universités de Makerere et de Nairobi offrent des trajectoires quasi identiques en termes de privatisation, la figure de l'université de Dar es Salaam propose au contraire un visage différent, qui permet de repenser l'harmonisation des réformes régionales et de mieux comprendre l'art et l'équilibre de la réforme, qui consiste en fait à se positionner par rapport à des exigences internationales, tout en préservant l'histoire et les pratiques nationales. Tout d'abord, l'État tanzanien reste le principal acteur du financement de l'université de Dar. Une étude en fait attentive de l'évolution du budget nous montre une hausse quasi constante du montant de l'État alloué dans le budget global de l'université, même si cet investissement reste insuffisant en rapport à la forte croissance des étudiants. Le budget général de l'université est passé de environ 7,5 millions de dollars en 87 à 16,5 millions de dollars en 2004. Au début des années 90, en fait, la Tanzanie a réintroduit dans l'enseignement supérieur une politique de participation au coût, qui n'est pas nouvelle puisqu'elle existait déjà sous la période coloniale. Pourtant, le taux d'inscription d'étudiants privés est resté très faible. En 2002-2003, les étudiants privés représentaient 13% et moins de 20% en 2004-2005. Pour comprendre en fait cette prégnance de l'État et la faible proportion des étudiants privés, notamment par rapport à ces universités voisines, il faut en fait notamment s'intéresser au rôle de l'organisation étudiante d'Arusso, qui est donc l'organisation étudiante principale à l'université de Dar es Salaam. En fait, la remise en cause de la politique de cette partage des coûts comme garantie de la condition étudiante est la revendication principale de Darusso et la structure même en fait de sa légitimité par rapport aux étudiants sur le campus. L'association a joué un rôle central dans le processus de médiation enclenché par l'administration centrale en participant aux différents processus de consultation de médiation à la fin des années 90, d'autant plus que l'un des objectifs affichés des réformes était de répondre aux différentes crises universitaires nuisible à la visibilité de l'université qui était dotée en fait d'une mauvaise réputation quant à la longueur de ses années académiques. En fait, depuis la fin des années 90, on observe une pacification progressive de l'université et une évolution des revendications, puisqu'au mouvement politique a succédé des registres de contestation plus matérialistes. En fait, je pense qu'on peut lire les réformes à l'université de Dar es Salaam à travers cette matrice de la culture du compromis, où la pacification du campus s'est négociée dans la mise en place de réformes néolibérales cosmétiques, où l'État finance en fait encore majoritairement l'université, et où la politique de participation financière demandée aux étudiants est encore à un stade initial. Donc, en fait, pour conclure, on peut donc dire que l'objet de la circulation des réformes universitaires permet de retravailler cette articulation locale globale en pensant les universités est-africaines à la fois comme extraverties, mais aussi comme des espaces nationaux déployant des trajectoires singulières. Voilà.
Alors bonjour à tous, moi je vais me pencher sur le concept de modernisation des daras au Sénégal. Alors au Sénégal, les écoles coraniques qui sont communément appelées daras sont entrées dans un programme de modernisation depuis 2002, après l'alternance politique qui intègre ces écoles dans une réforme globale autour de l'enseignement arabo-islamique. Donc cette expression « enseignement arabo-islamique » ne fait pas seulement référence aux écoles coraniques, mais essaie d'intégrer la question islamique et arabe dans le giron du système éducatif sénégalais. Donc dès les années 2000, Abdoulaye Wade a fait donc de l'enseignement arabo-islamique une des priorités politiques du ministère de l'Éducation. Donc, dans un contexte international basé essentiellement autour du concept intégrateur d'éducation pour tous, le gouvernement sénégalais a été encouragé à évoluer vers le réajustement de sa politique éducative dans le sens d'une reconnaissance légale de l'éducation non formelle. Cette réforme porte donc sur l'enseignement arabo-islamique et se décline sous quatre formes. Il y a l'introduction de la question religieuse, de l'éducation religieuse optionnelle dans le système éducatif public, le recrutement d'enseignants en langue arabe, la création d'écoles franco-arabes publiques et enfin la modernisation des daras. Donc ici, on se concentrera sur le dernier aspect de cette réforme, c'est-à-dire donc sur la modernisation des daras et sur ces acteurs qui sont engagés dans ce processus de réforme. Donc qui sont-ils et comment ils s'organisent ? Donc, cette analyse qui n'est pas exhaustive après seulement 3 mois de terrain n'a pas seulement une visée informative, mais cherche à comprendre une politique, c'est-à-dire son orientation, la forme qu'elle prend, mais aussi l'importance qu'elle a. Et donc, ça implique de connaître ceux qui la font et les relations qui les lient. Donc, on se penchera sur la notion d'action publique dans le secteur de l'éducation et plus particulièrement sur l'enseignement arabo-islamique. Alors l'analyse de l'action publique menée en faveur de la modernisation des daras est pertinente en vue d'interroger le poids de l'international dans les politiques publiques d'éducation au Sénégal. Donc ici notre hypothèse est double. On s'interrogera sur l'action publique donc, qui nécessite une connaissance approfondie de ces acteurs et des rapports qu'ils entretiennent entre eux. D'autre part, cette connaissance nous permettra aussi d'identifier des actions locales, qu'elles soient diversifiées ou pas, dans le cadre du concept de modernisation des daras. Alors, selon Padiolo, il y a un problème public quand des acteurs perçoivent des écarts entre ce qui est, ce qui pourrait être et ce qui devrait être. Donc, il semble nécessaire de se demander comment c'est la question donc, des enfants talibés et de leurs conditions de vie et d'enseignement dans les daras, donc dans des écoles coraniques, est devenu un problème public au Sénégal. On va alors s'interroger sur la construction de des problèmes publics, et que ça nous permettra de comprendre les modalités par lesquelles ces problèmes sont appropriés, mis en forme et définis par les acteurs sociaux. On s'interrogera également sur les jeux de pouvoir qui se constituent autour de contrôle de la définition de ces enjeux et de leur qualification, et de mode de gestion. Alors depuis les années 90, une attention grandissante est accordée par diverses ONG et organisations internationales aux écoles coraniques traditionnelles, et plus particulièrement en rapport avec la mendicité forcée des enfants talibés. Donc, dans les années 90, on est au Sénégal dans un objectif du chiffre qui consiste à estimer le nombre d'enfants mendiants dans le pays, et notamment à Dakar. Ce phénomène est largement repris par les médias, qui met l'accent notamment sur ces enfants dans les rues et la maltraitance physique dans ces écoles. C'est donc là le point de départ d'une internationalisation de la cause des élèves coraniques, renforcée et alimentée par la médiatisation croissante au Sénégal et dans l'espace public sénégalais. Alors, sur le plan éducatif, dès les années 2000, l'État sénégalais a tenté de développer des approches novatrices en matière d'enseignement et d'apprentissage au sein de ses écoles. Pour ce faire, la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, en collaboration avec l'UNICEF, a instauré un programme de trilinguisme qui met en place donc la langue nationale selon les régions, la langue arabe et la langue française. Et également une formation professionnelle dans certains DARA, des DARA tests qui ont été choisis, qui sont au nombre d'une vingtaine dans le pays. Et donc c'est ce programme qui est à la fois innovateur et expérimental, et donc une composante du programme d'intégration des DARA dans l'enseignement formel. Après l'expérimentation de ce programme, le président Abdoulaye Wade décide de mettre en place en 2008 l'inspection des DARA pour un recensement national et un contrôle des écoles coraniques sur le territoire sénégalais. Les DARA ont donc, depuis les années 2000, été l'objet de différents projets gouvernementaux, dont l'objectif est d'améliorer l'éducation FR dans ces institutions. Et le plus souvent, cette question est traitée en parallèle avec d'autres problématiques qui sont inscrites sur l'agenda national, telles que la santé et l'hygiène dans ces écoles, mais aussi l'éducation pour tous, et qui impliquent des activités diverses concernant la vie des élèves coraniques. Alors, plus globalement, dans la lettre politique générale du secteur, trois leviers ont été retenus pour moderniser les DARA. Il s'agit de la rénovation de DARA existants, la construction de DARA modernes et enfin l'extension des écoles franco-arabes publiques. Alors maintenant, on va voir la configuration d'acteurs dans ce processus de réforme, de modernisation des... des DARA. Alors l'action publique réside dans l'interaction d'acteurs qui sont socialement et politiquement situés. Elle est donc une vaste configuration d'acteurs dont les rapports de force sont susceptibles de changer. Pour saisir l'action publique, il importe donc de saisir les types d'acteurs, le contexte dans lequel ils évoluent et ces configurations qu'ils forment. Alors dans ce tableau, on voit donc les différents types d'acteurs qui sont existants, à la fois dans le secteur de l'éducation plus généralement, mais aussi plus particulièrement sur la question des écoles coraniques et des DARA et de la modernisation des DARA. Donc Bruno Jobert propose d'analyser ces changements globaux de politique publique en les rapportant à la manière dont s'articulent trois principaux forums, le forum politique, scientifique et associatif. Donc ces outils d'analyse permettent de restituer précisément les positions, dispositions et prises de position des différents acteurs, qu'ils soient individuels ou collectifs, et qui sont engagés dans ce processus de formulation et mise en place d'une politique. Donc l'action publique ne peut être saisie. Pardon, je descends juste, je ne sais pas si vous avez. Voilà. L'action publique ne peut être donc saisie indépendamment des acteurs qui les font vivre et qui agissent sur le problème et qui cherchent à promouvoir leur vision du problème et leur solution. Une fois que. Donc, voilà, le premier tableau, j'avais repéré donc tous les acteurs qui sont engagés dans ce processus de réforme. Et maintenant, une fois que ces acteurs sont repérés, il s'agit enfin de comprendre comment ils s'organisent. Donc ici, on a utilisé la notion de forum. Les forums représentent des communautés d'acteurs plus ou moins institutionnalisées et régies par des dynamiques et des règles du jeu spécifiques, au sein desquelles ont lieu des débats touchant de près ou de loin à la politique publique en évolution. Par ailleurs, Bruno Jobert et Affouilleux montrent que ces divers forums sont donc régis par des enjeux et des règles qui leur sont spécifiques, suivant une temporalité particulière. Alors, cette notion de forum utilisée ici est une grille d'analyse qui est efficace et utile pour une étude claire des acteurs de l'action publique sénégalaise. Il s'agit donc d'adapter cet outil à notre objet d'étude en identifiant donc les forums qui peuvent être pertinents et dans l'action de modernisation des DARA. Les forums peuvent aussi bien être nationaux qu'internationaux, voire même transnationaux. Et il existe ainsi des forums politiques nationaux au sein de chaque État et un forum politique international. Le forum scientifique est quant à lui transnational, puisque la question des écoles coraniques est adressée par des scientifiques aussi bien au Sénégal, au Niger, au Mali, voire même en Tanzanie. Et dans d'autres régions aussi hors Afrique. Et la pertinence de l'outil analytique, qui est le forum, réside donc bien en partie dans son adaptabilité aux différents problèmes publics pardon, et aux situations politiques. Donc voilà. Alors maintenant, on va voir sur le plan local et au niveau de ces actions, quelles sont les tensions et s'il y a des compromis pour aller vers un DARA, on va dire, moderne, généralisé au Sénégal. Donc, comme nous avons pu voir, la question de la modernisation des DARA englobe donc un ensemble d'acteurs sur le plan local, national, transnational. Et plus globalement, si l'on souhaite reprendre les différents programmes en cours, ces derniers sont basés sur des référentiels concurrents, concurrents, voire même opposés. Donc, cette analyse en termes de référentiel, qui est développée par Müller et Jobert, permet de s'interroger sur les perceptions de ces enjeux. Donc, ces référentiels donnent lieu à des jeux différents autour de ressources différentes, mais peuvent quand même être reliés entre eux. Donc, il y a le référentiel autour de la protection et des droits de l'enfant. Donc là, on sort un peu du secteur éducatif, mais on se concentre sur le droit à l'éducation et surtout dans un optique de lutte contre la traite des enfants. Et donc ça s'appuie dans le cadre du Millennium Challenge Account Sénégal, qui travaille en collaboration avec le ministère de la Justice. Il y a aussi le référentiel pour l'école pour sortir les enfants de la rue. Donc ici, le concept de DARA communautaire pour sortir les enfants de la rue est mis en place pour promouvoir l'école classique dans ces institutions, avec notamment l'enseignement de la langue française. Il y a également le référentiel des religieux arabisants, où là, la modernisation des DARA par certains chefs religieux est mise en place dans des écoles coraniques, avec un accent qui est mis notamment sur l'enseignement de la langue arabe. Il y a, en quatrième point, les référentiels des écoles coraniques traditionnelles, où là, l'enseignement coranique classique dispensé dans les DARA traditionnels est vraiment contre l'enseignement de la langue française. Enfin, il y a des initiatives mixtes, qui est surtout appuyée par l'inspection des DARA. Et là, ce qui est mis en place, c'est justement le DARA moderne privé et des DARA modernes publics. Donc, de manière générale, les tensions s'articulent autour de positions que les acteurs influents prennent en faveur d'un, voire de plusieurs principes d'action. Cependant, les tensions peuvent permettre d'aboutir à un compromis minimum qui rend possible une intervention publique sur le plus long terme. Alors, au Sénégal, la recherche d'un modèle, d'un compromis, est encore en cours qui laisse place à une diversité d'actions locales en fonction des différences, des différents référentiels et principes. Alors maintenant, nous allons voir cette diversité d'actions en prenant comme exemple différents programmes, dont deux principaux programmes, développés par le partenaire technique et financier USAID, EDB, donc éducation de base, qui est l'un des principaux partenaires techniques et financiers dans le secteur de l'éducation, et qui depuis 2008, donc sur une période de 5 ans, s'inscrit dans une stratégie globale d'amélioration d'accès et de la qualité du système éducatif sénégalais. Donc le projet qui nous intéresse, c'est la première composante de ce programme qui est l'accès des enfants vulnérables à une éducation de base de qualité. Donc les régions de Dakar et de Louga font partie de ce programme d'action. Donc en gros, ils ont USAID a signé une convention avec des ONG partenaires pour mettre en place dans des écoles coraniques ciblées l'enseignement de la langue française. Donc à Louga, par exemple, le programme concerne 22 daras et 40 élèves par dara ont un enseignement français dispensé par un éducateur volontaire. En parallèle, l'inspection des daras depuis 2008 est entrée dans un programme de construction de daras publics et de réhabilitation de daras privés. Ils ont également travaillé sur un curriculum de daras moderne, basé essentiellement sur l'approche par les compétences. Donc cette approche par les compétences est mise en place au niveau du ministère de l'Éducation dans le nouveau curriculum. Voilà. Alors, je vais passer. Donc pour conclure... Donc, selon les discours des instances déconcentrées et les acteurs locaux qui ont un pied dans l'administration scolaire, le programme de modernisation des daras a comme objectif ultime donc la scolarisation universelle sur le territoire sénégalais. Donc, l'approche ici utilisée, qui consiste à analyser les types d'acteurs et leur configuration dans ce processus de réforme, montre une multiplicité donc, de programmes qui sont mis en place dans les daras modernes. Et donc ça nous interroge aussi sur la place que jouent les organisations internationales et notamment la façon dont elles pilotent le système éducatif. Alors bon, ici j'en ai pas trop parlé parce qu'il y a la position des maîtres coraniques qui est quand même très importante, qu'on appelle les Sérines Dara, et qui sont confrontés, eux, à des contraintes économiques importantes dans leurs écoles et dans la prise en charge des enfants, et recourent donc à des ressources budgétaires non publiques, donc à des ONG auxquelles j'ai pu faire référence. Et les bailleurs de fonds, eux, passent pour notre situation, donc, par des ONG intermédiaires internationales pour la gestion de l'aide à l'éducation. La question autour des DARA est intéressante puisqu'elle met en avant le caractère de management entre toutes ces instances internationales, mais sont également le chantier de tout un tas d'expériences locales caractéristiques du secteur éducatif. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il y a tout un programme prévu, financé par le PAM, avec l'expérience des cantines scolaires, la question, j'en ai parlé, autour du curriculum des DARA, basé sur l'approche par les compétences, et globalement sur la qualité de l'enseignement religieux et l'extension de l'offre éducative au Sénégal. Au-delà des actions et programmes engagés, la réforme s'est accompagnée d'une redistribution des capacités d'influence sur les contenus enseignés et notamment sur le concept de modernisation des daras modernes et sur leur hiérarchie qui s'opère, pour notre cas, entre quatre acteurs principaux, acteurs internationaux par l'intermédiaire d'ONG, le ministère de l'Éducation avec l'inspection des daras et enfin les Sérines Dara, les maîtres coraniques. Merci. Voilà.
La parole à Tatiana.
Alors, la thèse en cours étudie le rôle joué par le mouvement des élèves et des étudiants dans les choix opérés par l'enseignement supérieur au Niger de la fin des années 50 jusqu'aux années 2000. Depuis sa mise en place, le système éducatif a eu en effet une fonction d'enseignement, mais aussi apparu comme un des lieux de la formation militante. L'intérêt de ma thèse est ainsi d'étudier les liens entre la logique contestataire et le cadre institutionnel de l'enseignement supérieur. Dans cette contribution, je présente les lignes conductrices de la première partie de ma recherche, à savoir la jeunesse et le développement de contestation dans le milieu scolaire universitaire des années 60, au début des années 80, sous le régime du parti unique de Dioré Amani et celui de Séyigné Konté. Comment une contestation a-t-elle émergé? En quoi consistait-elle exactement? Quel était son cadre institutionnel et ses orientations idéologiques? Comment et dans quelle mesure les mouvements de protestation dans le milieu scolaire et universitaire ont-ils orienté l'action publique dans le domaine d'enseignement supérieur au Niger? Alors, à la fin des années 50 et au début des années 60, la vie au Niger se caractérise tout d'abord par une rivalité sur la scène politique entre Djibo Bakary, le leader du parti Sababa, et Diori Amani, le leader du Rassemblement pour la démocratie et le progrès. Les votes négatifs au référendum de 58 les avaient radicalement opposés et Djibo Bakary était obligé de quitter le Niger son parti était interdit au Niger. Dès lors, les militants de Sababa étaient constamment persécutés par le régime de Diori Amani. Et ce trac se poursuit jusqu'à 69, l'année où les grands procès sur les militants de Sababa ont eu lieu. Ce contexte de rivalité politique et de lutte pour le pouvoir, ainsi que différents éléments propres à la situation d'instabilité politique et sociale de la région de l'Afrique de l'Ouest, a fortement influencé la gestion par le pouvoir de la contestation dans le milieu scolaire fin des années 50, début des années 70. Alors, quels étaient les éléments qui ont conduit à la perception de la jeunesse scolarisée comme un problème public? Les premières grèves nées au sein des établissements scolaires dans les années 50-60 ont eu lieu dans ce contexte politique instable. Dans cette période, il y a eu au moins 4 grèves importantes. Spontanées et peu organisées, elles ont pratiquement toutes pris pour prétexte la confrontation entre les enseignants et les élèves. Néanmoins, au-delà de mise en avant de cette raison, ces grèves avaient une dimension politique. En effet, elles étaient souvent soutenues, ou en tout cas encouragées, par les militants de Sababa, le parti politique devenu clandestin en 59, qui cherchaient effectivement à recruter les partisans et parfois même envoyer les boursiers dans les pays d'orientation socialiste. Cependant, malgré l'affaiblissement de Sababa dû à ce grand procès des années 65 et 69, les grèves ont continué. Les plus importantes étaient celles de 70, 72, 73, 76. La répression étatique a pu alors prendre plusieurs formes, fermeture des établissements scolaires, envoi d'élèves, arrestation, encore suppression de bourses. Ces décisions étaient souvent accompagnées par les tournées du bureau politique du parti, des meetings populaires, des communiqués officiels. Cependant, d'autres facteurs nourrissaient également la méfiance des hommes politiques nigériens vis-à-vis du milieu scolaire, en particulier, c'était l'instabilité politique et sociale dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. En particulier, le mai 68 de Dakaroua a joué un rôle important dans le renforcement des soupçons des hommes politiques sénégalais à l'égard des étudiants étrangers perçus comme susceptibles de menacer l'ordre public. Ce sentiment de menace était renforcé par le fait qu'avant 68, il représentait presque la moitié des étudiants de l'université de Dakar. Et après mai 68, on observe une réduction sensible du nombre d'étudiants étrangers. Si cette tendance peut s'expliquer par l'établissement d'universités nationales dans les différents pays, on peut toutefois se demander pourquoi celle-ci se crée après l'année 67-68. Alors, quels étaient les effets de la perception de la jeunesse scolarisée comme problème public sur la jeunesse et le développement de l'enseignement supérieur au Niger? À la fin des années 50, le régime scolaire devient un terrain de protestation et la construction de la perception du monde scolaire comme milieu contestataire se déroule en deux étapes. D'abord, par l'identification du milieu scolaire au parti Sababa et dans ce deuxième temps, à travers les événements de mai 68 d'Akarwa et la montée de la contestation dans les établissements d'enseignement supérieur de la sous-région. Alors, le centre d'enseignement supérieur au Niger a été créé en 1971. C'était un centre à vocation régionale, c'est-à-dire il était relié à son homologue à Ouagadougou où les disciplines d'enseignement scientifique ont été dispensées, alors qu'à Niamey, c'était les disciplines littéraires. Mais déjà en 1973, le centre d'enseignement supérieur de Niamey se transforme à l'université dite complète. Les questions qui se posent sont les suivantes. Pourquoi on gère les grèves et les contestations dans le milieu des étudiants n'ont-elles pas été considérées au moment de la mise en place de centres d'enseignement supérieur? Pourquoi fallait-il attendre 73, l'année d'apogée de la sécheresse, pour débuter la transformation de l'université de centre à vocation régionale à l'université à vocation nationale? Cette initiative impliquant nécessairement des investissements de temps et des efforts importants. Comme nous l'avons déjà souligné, au Niger, les régimes politiques ont toujours vu derrière les grèves et les contestations l'influence des forces extérieures. Or, ce qu'étaient censés représenter ces forces extérieures était différent pour les hommes politiques nigériens et pour leurs homologues de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Au Niger, de la fin des années 60 au début des années 70, ces forces extérieures étaient associées avec le Savaba, alors que pour les homologues de... pour les hommes politiques de la sous-région, c'était les étudiants étrangers. Et en 73, on observe une requalification de ces représentations de la force extérieure qui passe de l'association avec Savaba avec association avec des étudiants étrangers. Et à ce moment-là, on observe justement la transformation du centre d'enseignement supérieur à l'université complète. Probablement, la tendance à la création d'universités nationales dans les pays de l'ancienne, l'ancienne Afrique occidentale française a pour origine la situation de grève à l'université de Dakar, un des établissements en Afrique de l'Ouest, initialement destiné à former les élèves de la sous-région. La transformation de centre d'enseignement supérieur en université marque, semble-t-il, un tournant politique. L'enseignement supérieur commence à évoluer de pair avec des questions de sécurité et d'ordre public. Un autre fait révélateur vient appuyer cette hypothèse. Si, dès le départ, les locaux du centre d'enseignement supérieur étaient répartis un peu partout au Niamey, l'université, elle, a été concentrée, a été localisée de l'autre côté du fleuve. Le pont séparait ainsi les lieux de pouvoir du campus universitaire. Concernant l'institutionnalisation du mouvement des scolaires, on peut distinguer deux grandes étapes. La première, allant du début des années 60 jusqu'aux années 70, et deuxième, se déroule sur le campus universitaire et commence à partir de la fin des années 70. La contestation dans le milieu lycéen se nourrit surtout des effets émancipatrices de la fédération des étudiants d'Afrique noire en France. On peut beaucoup développer cette idée. Le passage à la deuxième phase d'institutionnalisation du mouvement coïncide avec le fait que les lycéens qui participaient dans les structures militantes du début des années 60 disent entrent à l'université et deviennent justement les leaders du mouvement des étudiants. Dans le processus d'institutionnalisation, le cadre idéologique a joué un rôle très important. Sur le campus universitaire, il existait des comités de formation idéologique qui opéraient comme des outils de normalisation et standardisation de la formation idéologique dispensée par les dirigeants du mouvement. Selon l'un des militants de l'époque, il y avait des normes de l'éducation pour les jeunes militants. C'était vraiment un système d'endoctrinement. Le régime militaire craignait réellement l'organisation des étudiants, étant donné que le mouvement étudiantin était l'unique mouvement d'opinion capable de mettre en question la légitimité du pouvoir à travers la diffusion des tracts. Et le journal étincelle qui était l'organe du mouvement. Cette appréciation s'est vue très fortement à travers les préparations du visite de François Mitterrand en 82, lorsque Séni Kountié a tenté de négocier directement avec les dirigeants du mouvement pour justement atténuer toute hypothèse de contestation. En mai 83, une vague de protestations embrasse le campus universitaire elle a été suivie par une intervention sur le campus de force de l'ordre. La répression cette fois-ci a été très brutale. Les dirigeants du mouvement, certains ont été mis dans le camp pénal très loin dans le désert à Agadez, et les autres dirigeants ont dû quitter le pays. L'intervention des militaires a eu des effets très importants sur l'affaiblissement du mouvement à partir de mai 83. À partir du début des années 80, le Niger entre dans une phase de la crise économique en partie due à la baisse des prix de l'uranium. Pour faire face à cette situation, le gouvernement prend rapidement des mesures visant la réduction des dépenses publiques. Le domaine de l'éducation, considéré comme l'un des plus demandeurs en matière de financement, est ciblé comme un terrain de réforme éventuelle. Dans le milieu scolaire des années 70, la mise en œuvre de ces réformes aurait sans doute été contestée dans le climat d'agitation et de contestation d'alors. Dans les années 80, elles se mettent progressivement en place sans pour autant provoquer de manifestations ou grèves importantes. La raison principale réside probablement dans l'affaiblissement des organisations étudiantes du fait des modalités de la répression de grève de mai 83. L'une de ces réformes était par exemple la suppression des internats et l'introduction du service civique. La progression des internats pourrait probablement remplacer les dortoirs par les salles de classe nécessaires afin d'accueillir de nouveaux élèves, mais en même temps, elle mettait fin à une vie sociale très intense dans les établissements scolaires et contribuait à affaiblir des liens de société entre les élèves, les privant ainsi de la possibilité de vivre pendant quelques années sous le même toit et de partager le temps pour la lecture militante. Le service civique national a été mis en place en 83-84. L'objectif était de dégager un nombre important de professeurs de CEG pour la formation de professeurs de lycée. Mais suite à l'intervention des militaires sur le campus universitaire, les dirigeants du mouvement scolaire ont quitté le Niger et ont mis en place les bureaux de relais. Et donc, souvent, ces membres étaient mis en service civique en première année, alors que c'était les étudiants de première année à l'université. Ce renvoi n'était pas conforme au texte officiel, puisque initialement le service civique avait été prévu uniquement pour les titulaires de licence. Les bourses, effectivement, ont été considérés comme les militants actifs par l'administration scolaire et l'administration de l'université, ont été effectivement privés souvent de bourses. Ainsi, le contexte des contraintes d'ordre structurel, comme la crise économique devenue de plus en plus sensible à partir du début des années 80, en joue un rôle important. La saturation de l'agenda public par les questions sécuritaires et la crise économique a probablement contribué au délaissement de certains projets dans le domaine de l'enseignement supérieur. Mise en place des programmes de la formation technique à l'université de Sfax et mise à l'écart d'une formation sur l'énergie, sur les énergies renouvelables à l'université de Niamey. En somme, depuis les indépendances, les scolaires et étudiants ont été perçus progressivement comme menace pour l'ordre établi. Cette perception des autorités s'est traduite très concrètement dès le départ dans la façon de concevoir l'enseignement supérieur. Et elle va marquer très profondément son développement dans les années à venir. Voilà.
Merci, Tatiana. dernière intervention, Adeline Delmont.
Oui, j'aurais dû le prendre.
Oui, absolument. Attends, je voilà, donc bonjour. Donc je suis Adeline Delmidico, donc je suis doctorante à Paris Descartes, donc au CEPED, et je travaille donc sur tout ce qui est coordination de l'aide à l'éducation, tout ce qui est partenariat dans le secteur éducatif en Afrique de l'Ouest. Et donc là, je voulais vous parler un peu donc d'articulation entre les principes internationaux et leur application, leur appropriation au niveau local, à travers un exemple qui est la coordination de l'aide dans le secteur éducatif du Mali. Donc j'avais commencé l'enquête en 2011, donc forcément il y a eu quelques petits changements depuis. Voilà, donc pourquoi le Mali? Parce que essentiellement, il y a une expérience inédite assez intéressante de coordination des acteurs de l'aide au développement qui s'est mise en place au Mali dès la fin des années 90 et tout particulièrement dans le secteur éducatif. Tout ça dans un contexte qui était marqué, qui est toujours marqué par une forte dépendance à l'aide extérieure et aussi une très forte multiplicité des acteurs qui intervenaient dans l'aide au développement. Et le récent coup d'État, donc le coup d'État l'année dernière, a beaucoup changé les choses, et donc je reviendrai en fin d'exposé sur certaines des bouleversements qu'il a pu engendrer. Je vais me concentrer un peu sur le avant coup d'État pour l'instant, parce qu'essentiellement ce partenariat malien a été présenté par les bailleurs de fonds, par les organisations internationales, comme une bonne pratique, comme un cas d'étude en termes de coordination de l'aide. Quelques définitions par rapport à la coordination. Donc, on fait un peu référence à la manière dont différentes activités peuvent être organisées, de façon soit à se dérouler en harmonie, soit à ne pas vraiment se contrecarrer ou à se contredire les unes les autres. Et la coordination, elle peut amener à la création d'un partenariat, c'est-à-dire une association d'acteurs qui se fixe des objectifs qu'individuellement, ils ne pourraient atteindre. Donc là, quelques petites définitions. Simplement, cette idée de partenariat, elle a été essentiellement amenée par la déclaration de Jomtien sur l'éducation pour tous. Elle a été affirmée à ce moment-là comme étant indispensable pour la réalisation de l'éducation pour tous. Et ensuite, le partenariat, la nécessité d'une démarche partenariale, elle a été ensuite amenée, reformulée par la Banque mondiale, par l'OCDE, là plutôt dans une optique d'efficacité de l'aide, d'améliorer l'impact des actions entreprises dans l'aide au développement dans les pays du Sud. La Banque mondiale, l'OCDE, amène aussi cette idée de coordination et de partenariat dans l'idée, dans la volonté d'impliquer davantage les bénéficiaires de l'aide à l'éducation dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement. Et il pose ainsi l'appropriation comme étant indispensable pour l'efficacité, pour la bonne marche des actions de développement entreprises donc dans les pays du Sud. Quand on parle d'appropriation, on parle de l'idée de faire sien de principes qui souvent viennent de l'extérieur, de se les approprier, mais aussi, donc selon la déclaration de Paris, ça veut dire également maîtriser ses politiques, ses stratégies de développement et être en position de leadership dans ces systèmes de coordination et dans l'élaboration des stratégies. Donc leadership de la part des pays du Sud. Donc, effectivement, l'appropriation, ça ne va pas de soi, notamment lorsque ces principes, ces stratégies de développement, elles sont formulées à une échelle internationale, par des organisations internationales ou aussi par des bailleurs de fonds, et ensuite, entre guillemets, importées dans les pays bénéficiaires de l'aide. Et donc ici, dans cette étude, l'enjeu, c'est un peu d'apprécier justement l'impact de ce partenariat, de cette coordination sur l'appropriation par les acteurs nationaux maliens de leurs stratégies de développement qui sont adoptées dans ce cadre partenarial. Et aussi essayer de mettre à jour certaines des relations de pouvoir qu'il peut y avoir entre ces différents acteurs. Donc il y a essentiellement trois questions qui se posent dans cette étude. C'est de voir si ce processus de coordination, ce partenariat, est-ce qu'il est réellement une imposition de principes internationaux par des acteurs étrangers au Mali, ou est-ce qu'on peut voir que les acteurs maliens y maîtrisent et ils s'approprient le processus complètement, ou est-ce qu'on n'a pas un peu entre les deux, est-ce que c'est approprié, transformé par les acteurs maliens? Donc, c'est quelques questions ici que je me pose dans l'étude. Et donc je vais voir un peu répondre à ça en trois parties. D'abord voir la première étape du processus de construction de ce partenariat dans l'éducation qui s'est fait essentiellement sous l'influence de principes directeurs définis à l'échelle internationale. Ensuite, de voir un peu la dynamique au sein de ce système de coordination qui est largement là aussi impulsé par des acteurs internationaux. Et en dernière partie, je reviendrai un petit peu sur les changements apportés par le coup d'État de l'année dernière. Et donc oui, cette analyse, donc elle s'appuie essentiellement sur une série d'entretiens semi-directifs que j'avais réalisés à Bamako donc en 2011. Donc des entretiens auprès des acteurs de l'aide, agences bilatérales, organisations multilatérales, mais aussi auprès du ministère de l'Éducation au Mali, des observations de certaines réunions du partenariat, et bien sûr aussi des documents de travail, des rapports et échanges de courriers et d'emails depuis que je suis rentrée du Mali, donc en 2011. Donc première partie par rapport à la première étape de construction de ce partenariat qui est largement influencé par des principes internationaux. Donc d'abord la première étape, donc ça c'est à la fin des années 90, cette première étape, cette construction du partenariat, ça a été donc débuté grâce à une initiative de l'OCDE qui était donc la revue, qui a lancé une revue de l'aide au Mali en raison d'un contexte spécifique, une multiplicité d'acteurs et beaucoup... Et pays très très pauvres, hein, très pauvres en termes d'IDH, en termes de développement économique. Et à partir de ce moment-là, donc, le Mali devient un pays pilote pour le CDE en termes de coordination. Les conclusions de l'enquête, c'est de voir qu'effectivement, c'est la fragmentation de l'aide qui était néfaste à l'impact, à l'efficacité des actions entreprises. Et donc, en réponse à ça, on va créer des instances, des groupes spécifiques pour justement assurer une meilleure coordination des actions entre les acteurs. C'est-à-dire qu'il y a une commission mixte, par exemple, Mali partenaire, qui a été créé, des groupes informels aussi de discussion pour les, donc d'un côté les ministères maliens et de l'autre côté les bailleurs de fonds. Au niveau donc de l'éducation, c'est l'un des secteurs où la coordination elle est la plus poussée, avec la santé également. Et pourquoi ? Ça s'explique parce qu'il y a eu ce PRODEC, donc le PRODEC ici c'est écrit, c'est un programme décennal de développement d'éducation qui lui a été développé donc à la fin des années 90, qui a été élaboré au départ de façon participative, avec la consultation d'une grande diversité d'acteurs de l'éducation au Mali. Puis aussi, ça a permis de fédérer tous les bailleurs de fonds autour d'un programme éducatif. Tous se sont mis ensemble autour d'une table ronde pour discuter de la modalité de leur soutien, de leur financement à ce programme. Cette dynamique donc, qui est commencée ici, ça reflète essentiellement des idées ou des orientations des organisations internationales de l'époque, à la fin des années 90. Il y a des changements au niveau de l'action, notamment de la Banque mondiale, du FMI, qui met plus l'accent sur la réduction de la pauvreté, sur les secteurs sociaux, et met en avant tout ce qui est bonne gouvernance, mais aussi une démarche participative, donc consulter les acteurs locaux, et aussi une approche par secteur et non plus uniquement par projet. Bien sûr, il y a quand même quelques critiques. Cette démarche participative, par exemple, pour la définition du PRODEC, donc du programme éducatif, décennal éducatif, a notamment fait l'objet de quelques critiques par les acteurs locaux, notamment certains syndicats, certaines associations d'enseignants, qui trouvaient ne pas avoir été tellement consultés ou pas vraiment écoutés, ensuite, dans l'élaboration du programme. Ensuite, donc progressivement, dans les années 2000, ce partenariat va prendre une forme de plus en plus institutionnelle, il va se renforcer aussi, et de même que pour les prémices du partenariat, ce renforcement il est lié essentiellement à des dynamiques qui sont assez extérieures au contexte malien. Donc le premier élément qui a aidé à ce renforcement, c'est l'élaboration du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, le CSLP, qui a permis à tous les bailleurs de fonds de travailler ensemble et de travailler avec le gouvernement malien sur la définition d'un cadre d'action commun, d'un cadre macroéconomique d'action commun pour la réduction de la pauvreté. Et ça a permis aussi donc à ce moment-là de consolider ces actions, ces institutions nouvellement créées de coordination. On a reconnu ces institutions par décret, par exemple. On a commencé à les organiser en comités techniques et aussi en comités thématiques par secteur, à partir de ce moment-là. Mais là aussi, le CSLP, donc, on demande aux acteurs de participer, de travailler ensemble. C'est une demande, c'est une obligation, une exigence du FMI, de la Banque mondiale, pour pouvoir ensuite être financé. Donc, ce n'est pas vraiment venu du niveau local du Mali. Ensuite, on faut aussi évoquer la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, qui apportait un cadre important et des indicateurs pour évaluer donc ce processus de coordination, pour renforcer le processus qui existait déjà. Donc à partir de ce moment-là, dans les années 2000, on voit que les institutions de coordination, ce ne sont plus de simples groupes de dialogue et d'échange, mais vraiment des groupes de travail entre les partenaires techniques et financiers et le gouvernement. Et on a aussi une création d'encore de nouvelles institutions, comme un pôle technique, qui est là pour aider un peu à la mise en œuvre de cette coordination, pour évaluer un petit peu ce qui se passe, d'un secrétariat à l'harmonisation d'aide. Donc vraiment, ça se renforce et ça s'institutionnalise. Donc cette construction, cette première étape, ça montre un peu quand même l'influence extérieure de principes internationaux sur des processus nationaux. Donc bien sûr, cette coordination, elle a été possible par la mobilisation des acteurs gouvernementaux maliens, par une forte volonté aussi en termes de développement d'éducation. Il y avait une forte volonté politique de pousser pour l'éducation. Et il y avait quelques besoins, notamment en raison du nombre très important d'acteurs qui intervenaient dans le secteur. Mais malgré ça, on voit que quand même, le cadre de cette coordination reste importé, reste amené par des acteurs extérieurs. Cette dynamique, elle reste quand même lancée par des acteurs extérieurs plus que par des considérations locales. Donc là, j'ai mis quelques auteurs ici, effectivement, on peut voir un peu la force des idées, d'orientation qui sont définies à une échelle internationale et qui se diffusent et qui influencent fortement les politiques publiques, l'action publique de gouvernement dans les pays du Sud. Et ces instances qui diffusent ça, c'est essentiellement la Banque mondiale, l'OCDE ou le FMI ici, qui sont les institutions les plus importantes, les plus influentes en matière de développement. Donc ça fait évoquer essentiellement l'approche de Bourdieu sur le pouvoir symbolique, que ce soit du discours, aussi des idéologies qui émanent d'instances légitimes et qui s'imposent, entre guillemets, aux dominés, c'est-à-dire ici, aux pays qui reçoivent de l'aide, donc les pays du Sud. Donc j'ai mis une petite citation ici, effectivement. Donc ce sont un peu des rapports de pouvoir, tous ces discours, ces idéologies, entre guillemets, sur comment doit se faire l'aide au développement, c'est donc importé par des instances légitimes qui sont ici la Banque mondiale, qui sont ici l'OCDE et qui s'imposent donc aux pays du Sud. La deuxième partie, donc, c'est plus sur la dynamique de ce partenariat. Donc le partenariat, effectivement, donc j'ai dit, il s'est beaucoup institutionnalisé. On a créé des institutions très spécifiques pour la coordination entre partenaires, ce qui a permis d'améliorer effectivement la coordination et le dialogue. Donc je vous ai mis ici un petit tableau par rapport à toutes ces instances qui ont pu être créées. Vous avez les instances en haut, donc c'est plus au niveau donc pour chapeauter toute cette coordination. Vous avez 10 groupes thématiques et des groupes transversaux. Les groupes thématiques, donc ça n'a pas bien passé, c'était au niveau de l'éducation. Chacun est divisé en sous-commissions et chacun a une organisation très structurée. Il y a des textes qui régissent comment chaque acteur doit participer, chaque acteur doit collaborer ensemble. Toutefois, cette coordination n'est pas, même si elle est assez avancée, elle n'est pas parfaite, il y a toujours une certaine fragmentation de l'aide. Il y a toujours, par exemple, il y a beaucoup de soutien budgétaire, sauf qu'on essaie de garder un contrôle avec une traçabilité des fonds, des choses comme ça. Bon, je ne reviens peut-être pas sur les détails techniques. Il y a eu quelques soucis par rapport, par exemple, à des décisions à prendre quand il y avait, en cas de retard ou en cas de désaccord avec la partie malienne. Les acteurs, les bailleurs de fonds n'ont pas répondu de façon concertée du tout. Donc il y a quand même quelques petits manquements dans cette coordination. Et aussi, ces nouvelles modalités d'action peuvent créer de nouvelles contraintes, des contraintes de temps. Certaines personnes au ministère se sentent un peu trop contrôlées, alors que ça devrait être un peu le contraire. Donc l'un des problèmes centraux, effectivement, dans cette coordination, c'est le fait que les acteurs maliens ne sont pas en position de leadership. C'est ce qui ressort des écrits, mais aussi des entretiens que j'ai pu avoir. Ça peut s'expliquer par le fait qu'effectivement, avec beaucoup plus de soutien budgétaire et de coordination au niveau de l'élaboration des politiques, les bailleurs de fonds sont amenés à participer, mais en amont, de la définition des programmes, c'est-à-dire qu'ils participent à l'élaboration, à la rédaction directement des documents, et ça ne va pas du tout dans le sens d'une meilleure appropriation locale. Donc ici, on peut parler, pourquoi pas, de ce multilatéralisme éducatif, c'est-à-dire que les États ne sont plus les seuls acteurs à intervenir dans la définition, dans le contenu des politiques publiques. Ils doivent faire avec les organisations internationales et aussi ici les bailleurs de fonds. Aussi, pendant les négociations, on voit que les partenaires techniques et financiers ils sont en position de force pendant ces négociations, pendant les discussions du cadre partenarial. Et on observe du coup une certaine frustration de la part des acteurs maliens en réunion qui ont le sentiment, eux, d'être peu écoutés, d'être peu entendus. De l'autre côté, il y a aussi les partenaires techniques et financiers qui, eux, peuvent exprimer une certaine frustration parce qu'ils estiment que les Maliens ne sont pas assez dans la prise d'initiative, pas assez dans la proposition de nouvelles politiques. Et il y a certaines difficultés au niveau de ces réunions qui sont très longues et très difficiles pour tous les partenaires. Aussi, l'une des limites, c'est que tous les acteurs maliens ne sont pas du tout impliqués dans ce partenariat. Vous avez le Parlement qui est complètement absent de ces discussions, et aussi toute la société civile qui, même si elle avait été impliquée en amont pour le plan décennal d'éducation, n'est pas du tout impliquée dans ce dialogue partenarial. Et ça, c'est une volonté du gouvernement malien, d'ailleurs. Donc, comment est-ce qu'on peut analyser ce manque d'appropriation ? Soit il y a d'un côté les partenaires techniques et financiers qui évoquent un manque de capacité au sein du ministère, mais surtout aussi un manque de coordination entre les services, un manque d'organisation du ministère qui ne facilite pas le dialogue dans les services et la meilleure gestion du ministère de l'Éducation. Il y a aussi un petit... ce qui ressort pas mal des entretiens, c'est que les partenaires techniques et financiers estiment souvent être en meilleure position de savoir ce qui est bien, de savoir ce qu'il faudrait faire en termes d'orientation, de gestion de l'éducation. Ils le disent assez clairement, et effectivement, là, ça ne va pas non plus du tout dans le sens d'une meilleure appropriation. Donc, ils imposent un peu ce qu'ils estiment qu'il faut faire. On peut aussi se poser pas mal de questions par rapport à la liberté possible. Quel degré de liberté est possible dans des pays qui sont complètement dépendants financièrement de pays occidentaux ou d'organisations internationales? Ça, c'est donc les auteurs Wickens et Sandin qui parlent de ça. On n'est pas sorti d'un colonialisme quand on a cette dépendance financière importante. Pour d'autres auteurs, eux parlent des conditions structurelles qui expliquent le manque de marge de manœuvre de certains pays, dessus dans les négociations sur leur aide au développement, c'est-à-dire que pour eux, ces négociations de l'aide, elles sont complètement imbriquées dans un contexte beaucoup plus large, un contexte politique, économique, social, mais aussi idéologique, qui fait que certains pays n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre dans leurs discussions. Ils ne peuvent pas vraiment imposer ce qu'ils voudraient dans l'élaboration de leur politique. Et au Mali, on est dans une situation où le Mali n'est pas en position de force pour impulser ce processus de négociation de l'aide, que ce soit parce qu'il y a un problème d'endettement du pays, donc un très fort besoin de financement extérieur, mais aussi une grande faiblesse des institutions de planification, des institutions gouvernementales, qui fait qu'on a besoin d'avoir une expertise extérieure et on ne renforce pas assez l'expertise locale en matière de planification macroéconomique. Voilà, donc simplement, je vais aller très vite par rapport à ce qui s'est passé depuis le coup d'État. Effectivement, vous savez qu'il y a une crise au Mali depuis un an. Crise politique d'abord, ensuite militaire et bien sûr économique et sociale qui découle de ça. L'action bien sûr de l'aide au développement a été complètement bouleversée, même si on voit que l'action des partenaires techniques et financiers se maintient. Chaque pays a décidé d'arrêter complètement l'aide au développement, mais on a conservé une aide humanitaire parce qu'il n'y avait pas de gouvernement légitime. On a une aide humanitaire et on a conservé une certaine coordination, un certain système de coordination entre les partenaires techniques et financiers sans le gouvernement, ce qui peut-être encore aller dans le sens du fait que ce partenariat était complètement, finalement, impulsé plus par les partenaires que par la partie malienne. Il y a eu définition d'une feuille de route pour la reprise de la coopération qui ne va pas être tenue puisqu'il y a encore pas mal de changements en ce moment. Des étapes, les partenaires ont essayé de définir des étapes pour la reprise de leur aide. Donc ça, c'était en commun. Effectivement, le problème qu'on peut peut-être évoquer, c'est par rapport aux conditions structurelles, puisqu'on parlait qu'il y a un déficit de leadership de la partie malienne parce qu'ils sont assez dépendants politiquement, économiquement. Cette crise risque quand même vraiment de renforcer ça. On peut se poser la question, est-ce qu'ils vont pouvoir, les Maliens, après, en sortie de crise, est-ce qu'on va être plus à même d'être en leadership? On peut se poser la question par rapport à ça. Voilà, donc simplement pour conclure... effectivement, donc, le Mali a été cité comme bonne pratique pendant longtemps, en bonne pratique en matière de coordination. L'analyse de terrain donc, avait bien montré quand même qu'il y avait une forme manque de leadership, un manque d'appropriation de la part des acteurs maliens, qui semble montrer quand même que ce partenariat reste largement impulsé par des dynamiques extérieures, par les bailleurs de fonds et un peu moins approprié par la partie malienne. Peut-être que c'était en cours, on ne sait pas, puisque c'est un peu stoppé pour maintenant, c'est possible. Mais voilà, quand même, manque d'appropriation et un peu trop dynamique impulsée de l'extérieur. Voilà.
Merci à tous les quatre.
Bonjour à tous. D'abord, merci à la fois aux organisateurs du colloque de m'avoir proposé de discuter donc cette table ronde et puis aux quatre intervenants et intervenantes dont j'ai lu avec beaucoup d'attention les papiers et dont on on vient d'écouter effectivement les présentations orales. Alors j'interviens quand même, je le dis tout de suite, en tant qu'historienne, puisque je pense qu'on m'a demandé de discuter un petit peu ces papiers, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'enseignement, mais à l'époque coloniale, donc en Afrique de l'Ouest francophone, donc je suis plutôt spécialiste de cette région d'Afrique. Et donc là, les papiers qui vous ont été présentés sont à la fois des papiers de sciences politiques, d'anthropologie et de sociologie qui portent, comme vous l'avez compris, sur la période quand même, en gros, 1980-2000, et puis Tatiana revient davantage sur la période des années 50, mais donc on est dans une période quand même très contemporaine. Alors je ne vais pas être longue parce que je pense qu'il faut qu'on ait le temps de discuter. Je vais juste peut-être souligner trois apports principaux, me semble-t-il, de ce que j'ai lu et entendu. Et puis ensuite, je ferai une remarque et je lancerai deux pistes de discussion. Et puis Pierre rajoutera des éléments. On s'est un peu coordonnés sur tout ça. Alors les trois thèmes qui me semblent vraiment important, un peu transversaux aux quatre interventions et très intéressant, c'est d'abord l'articulation des différentes échelles. Hein. On est allé, en vous écoutant, de l'échelle très locale hein, pour Clotilde, avec des études fondées sur des analyses de quartier, échelle nationale où, bon, vous l'avez vu, plusieurs pays hein, africains ont été évoqués, échelle sous-régionale, puisqu'il a été question d'Afrique orientale et également dans le papier sur le Niger, hein, des liens entre le Niger et les pays de la sous-région Afrique de l'Ouest. Et puis, bien sûr, en fait, il me semble que l'échelle peut-être qui était la plus présente, et on y reviendra, hein, c'est l'échelle internationale, puisque c'est cette idée de l'articulation entre global et local qu'on a entendu. Donc ça, il me semble que cette approche-là est vraiment stimulante et intéressante. La deuxième chose qui m'a bien plu dans tous ces papiers, c'est finalement cette question de la réforme. Qu'est-ce que c'est qu'une réforme? Quel est le rôle de l'action? Enfin, qu'est-ce que l'action publique hein? Vous avez tous plus ou moins employé cette expression et posé la question de ce qu'on peut appeler l'action publique. Et donc, quel est le rôle de l'État dans cette action publique? L'État n'est pas forcément tout seul en matière d'enseignement. Et ce qui m'a intéressé aussi en lien avec ça, c'est cette idée de produire des modèles hein, de bonne gouvernance, alors très à la mode, mais on voit le Mali pendant un temps, c'est le modèle du bon partenariat, de la coordination. On voit Makerere, l'université ougandaise, qui est le modèle de la bonne réforme, privatisation, etc. Il me semble que ça, c'est aussi quelque chose qui est assez transversal. Et puis, enfin, le troisième point, enfin, la troisième thématique qui, en fait, pour moi, est celle qui m'intéresse le plus, parce que c'est vraiment ce que j'essaie de faire en histoire, hein, c'est l'attention aux acteurs hein, et à la société, et donc à la multiplicité des acteurs et à leur rôle. Alors, dans vos différents papiers, hein, il est question d'associations d'acteurs, de système d'acteurs, même pour Clotilde, de configuration, de forum. Dans votre présentation sur le Niger, on voit les acteurs lycéens, étudiants, effectivement, et leur forme de mobilisation à travers des associations. Et puis, effectivement, on a vu aussi avec Olivier carrément des experts, des figures, des itinéraires, des personnalités, disons, avec un rôle encore plus politique à l'échelle internationale. Donc, je vais y revenir, parce que ça me paraît à la fois l'aspect très riche des interventions et en même temps ce sur quoi j'ai peut-être des questions. Mais ce qui m'a frappé, c'est la complexité en fait hein, de tout ce que vous avez montré et des différents acteurs en jeu dans ces questions éducatives. Donc c'est à la fois intéressant et du coup ça demande approfondissement. Alors ma première, la remarque et puis après j'ouvrirai la discussion. Alors évidemment comme je suis historienne, ce qui m'a un petit peu manqué dans les différents papiers, c'est la contextualisation. Inégalement, mais effectivement il me semble que pour comprendre ce qu'est une réforme, il faut savoir parfois, dans certains cas, davantage d'où on part. Hein. Sinon, on ne comprend pas les enjeux du changement. Alors bon, en plus, je sais très bien, c'était un temps très limité. Vous êtes en thèse. Alors dans la thèse, il y aura sans doute une première partie de contextualisation, comme toujours. Donc ça, j'en doute pas une seule seconde. Mais simplement là, c'était juste pour réagir sur quelques points. bon, sur, notamment sur la question, par exemple, de la privatisation du secteur de l'enseignement. Je pense que, par exemple, dans le cas de l'Afrique orientale, c'est une question qui est en fait très ancienne. Et les écoles privées au Kenya, par exemple, si on lit la thèse d'Hélène Charton, on voit qu'elles apparaissent dans les années 20, et que finalement, cette logique de privatisation, elle date pas des années 2000. Donc après, la question, c'est qu'est-ce qui change l'ampleur. On a vu dans vos tableaux, manifestement, les étudiants... privé, c'est très important, de plus en plus important. Mais voilà, cette question, c'est finalement cette idée de c'est quoi la nouveauté des années 2000. Bon, ça, c'est question historienne basique, je dirais. L'autre dimension de cette contextualisation, c'est la dimension régionale. Là aussi, quand on parle mondialisation, circulation des modèles, il me semble que c'est pas nouveau, hein, et que par exemple Makerere, si on lit le livre de Carol Schicherman, qui traite de l'histoire de l'univers, enfin de Makerere, qui a été créé en 1922 jusqu'aux années 2000, on voit que c'est une université sous-régionale déjà, et c'est déjà le modèle à l'époque coloniale qui recrute des étudiants au Kenya, en Tanzanie, etc. Donc ça, je ne doute pas que vous le connaissez, mais il me semble que du coup cette question de la nouveauté, qu'est-ce qui change, voilà, ce qui intéresse les historiens, c'est qu'est-ce qui change et donc comment on voit apparaître dans les années 2000 des choses nouvelles. Et pareil sur l'extraversion des modèles, parce que là aussi, si on revient à la situation kényane, on voit très bien que en fait le Kenya a entretenu des relations au niveau universitaire étroites, non seulement avec l'Afrique du Sud et l'Ouganda, enfin les pays voisins, mais aussi avec l'Inde dès 47. En fait, nombre d'étudiants kényans partent faire leurs études supérieures en Inde, et il y a des liens là qui existent aujourd'hui avec l'Asie, vous le parlez, mais qui ont été créés en fait bien avant. Et bon, alors c'est aussi une question que je me suis posée en écoutant Clotilde, hein. Dans le cas du Sénégal, ces écoles coraniques, évidemment, elles ont une histoire très longue, et la question, c'est voilà, la réforme, à partir de quelle situation est-ce que on la pense. Et on comprend en vous lisant qu'il y a à la fois une dimension économique, meilleures conditions matérielles, prise en charge, locaux, etc., et une dimension politique. Et cette dimension politique, à vous lire, hein, j'ai pas tout à fait bien compris. En fait, pourquoi il y a cette volonté de réforme des écoles coraniques, si ce n'est que ça devient une question, vous dites c'est un problème politique, mais comment il est construit ce problème politique ? Et enfin, deux dernières pistes de discussion. Alors la première, c'est les liens en fait entre contraintes internationales et acteurs locaux, parce qu'en fait c'est ce qui était transversal dans tous vos papiers. Et il me semble que c'est des questions méthodologiques, c'est-à-dire comment est-ce que vous mesurez très précisément le poids des contraintes internationales et la marge de manœuvre des acteurs. C'est-à-dire que souvent, alors, du coup, on a les organisations internationales, même si vous êtes tous dans une logique de déconstruction qui est très intéressante, mais enfin, souvent, ça redevient une sorte de tout. Hein, c'est-à-dire qu'entre la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, pour vous, est-ce qu'il n'y a pas des différences aussi entre ces organisations ? Comment est-ce qu'on mesure le poids de ces organisations ? En fait, j'ai eu l'impression, mais peut-être que je me trompe, en écoutant votre papier sur le Mali et celui sur l'Afrique orientale, qu'on avait un peu deux analyses vraiment assez opposées. En tout cas, il y a une discussion possible. D'un côté, vous insistez beaucoup sur la coproduction des normes internationales en matière éducative. Donc, en fait, quand même la part des acteurs locaux, ougandais, tanzaniens, et alors que dans le cas du Mali, au contraire, vous mettez vraiment l'accent sur le poids et la prééminence des institutions internationales. Alors, est-ce que ça fait deux modèles, un modèle est-africain, un modèle ouest-africain ? Est-ce que c'est plus compliqué ? Et finalement, quels ont été les outils pour mesurer tout ça ? Et pour nous permettre d'être vraiment convaincus. Et donc, corollaire avec ça, le rôle des acteurs et leur marge de manœuvre, bien sûr. Donc, vous travaillez tous beaucoup avec des entretiens, ce qui est tout à fait logique. Et moi, finalement, je suis restée quand même un tout petit peu en demande sur cette question des acteurs. C'est-à-dire que je pense que c'est toujours très parlant dans vos papiers quand vous présentez des itinéraires, des cas concrets que vous montrez, comme vous le faites avec David Courte, hein, comment une personne est restée en responsabilité pendant 10 ans et donc a eu une action effectivement dans différentes instances en matière de réforme. Donc je pense que ça c'est vraiment le point à développer, mais c'est le plus difficile à faire et c'est le plus long à faire parce qu'il faut effectivement on ne le trouve pas dans les rapports produits par les institutions. Donc voilà, donc mes pistes, hein, c'est vraiment cette question des contraintes internationales et du rôle des acteurs et comment est-ce qu'on travaille méthodologiquement sur tout ça. Voilà, j'espère que je ne vais pas être trop longue.
Merci beaucoup. Je voudrais rajouter quelques mots qui font écho à ce passage, je serai assez bref aussi, et dire des choses un petit peu différentes sur les points que tu as développés, et rajouter un point qui est celui en fait, des concepts qui me paraissent très, très dangereux en éducation en ce moment, des concepts de modernité, de développement, etc. C'est de la tarte à la crème, mais malheureusement, c'est encore toujours assez flou dans certaines communications, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et tant mieux. Alors, premièrement, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est la tension entre la tendance à l'homogénéisation impulsée par les organisations internationales, ce qui permet de parler d'ordre éducatif mondial depuis les années 90, hein, et en même temps, cette multiplicité d'acteurs qui s'investissent dans ces politiques, ça Olivier l'a très bien montré, et qui sont source d'hétérogénéité ou de fragmentation, comme l'a dit Adeline. Et là, il y a une tension, ce qui est dur à démêler, je trouve, à certains moments. On le voit très bien avec le travail de Clotilde sur les Dahara, où finalement, derrière ce grand chapeau de l'éducation pour tous et de la modernisation, entre guillemets, chacun met ce qu'il veut. On en a qui parlent d'acquérir des compétences dans des savoir-faire, il y en a qui parlent de qualité de l'enseignement religieux, d'autres d'éradiquer la pauvreté. En gros, on est sur un chapeau, un terme polysémique des modernisations, où un nombre important d'acteurs s'investit, chacun avec des référentiels, qui dit mais même des stratégies complètement différentes, voire opposées. Et ça, c'est intéressant de voir sous le même terme, on retrouve tout ça. Hein. Ce qui m'amène à parler des concepts, c'est que ces concepts-là de modernisation, développement, etc., ça peut être... Alors, désolé, c'est très banal ce que je dis, mais malheureusement, on voit encore souvent des articles et des communications où c'est pas très clair. Ces termes, c'est des catégories qui peut-être structurent la pensée des acteurs, de manière très floue, on est d'accord, mais en aucun cas, c'est des catégories d'analyse. Et je pense que Clotilde, tu aurais dû le dire avant. On le voit dans ta communication, mais tu parles de modernisation sans arrêt, mais tu ne nous expliques pas que ce n'est pas une catégorie d'analyse pour toi. Alors ça apparaît, mais je trouve très important de le préciser à chaque fois, d'autant plus que donc, c'est des termes flous et polysémiques, mais aussi très chargés idéologiquement. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je me suis amusé à chercher une définition du terme développement sur le site de la Banque mondiale. Il n'y en a pas, alors que ce terme est toutes les deux lignes. Donc, par défaut, c'est du néolibéralisme, on le sait très bien, mais je trouve ça important de le préciser, d'être très très vigilant là-dessus. Voilà. Ensuite, par rapport aux acteurs, est-ce que vous pourrez nous dire deux mots sur les réceptions des politiques et des discours éducatifs, mais par les acteurs scolaires, vraiment tout en bas, c'est-à-dire les élèves, les familles, c'est-à-dire replacer ces réformes et les institutions scolaires dans leur environnement social? Parce qu'à mon avis, la manière dont les populations localement s'approprient l'école, l'investissent, comprennent ces politiques scolaires, les utilisent, sont déterminantes, on va dire, pour l'avenir de ces politiques scolaires. Et c'est un des points forts de ton travail, Tatiana, où vraiment tu pars par en bas et tu essaies donc de montrer ça. Au niveau des appropriations, Adeline, tu parlais de faire sien. Et je pense qu'il y a aussi une autre dimension, c'est que c'est pas seulement faire sien, alors tu l'as montré, mais c'est pas seulement faire sien une politique qui vient de l'extérieur. Dans appropriation, il y a des redéfinitions, il y a des réinterprétations, voir comme un État et voir comme une institution internationale, ce n'est pas pareil que voir comme un paysan, voir comme une famille de classe moyenne et voir comme... c'est tout le travail de James Scott, Seeing Like a State. Hein. Et pour moi, les politiques éducatives se forme, enfin c'est un nœud social l'école et elle se forme à la jonction de toutes ces dynamiques là. Et enfin, Tatiana, j'ai trouvé très bien la manière dont tu montrais que l'école justement pouvait être un lieu de socialisation politique. Alors c'est très banal aussi, mais c'est très important, complètement différent de ce que veut l'État. Et là on est dans la socialisation par les pairs. L'État veut créer avec les universités des élites fidèles, mais ces élèves-là, entre eux, ils se socialisent complètement différemment pour être contestataires. Et est-ce que tu pourrais dire deux mots sur... alors, tu n'as pas eu le temps de le dire, mais on a pu le voir dans ton papier. Certains se disaient, parmi ces étudiants, les soviétiques, d'autres les albanais, d'autres... Bon, et on sait que les années 60-70, les universités africaines étaient foisonnantes au niveau politique, que les damnés de la Terre circulaient partout, par exemple, c'était un best-seller lu par tout le monde, les livres marxistes aussi, que les étudiants circulaient. Donc, il y a eu une intense socialisation politique marxiste et tiers-mondiste à cette époque. Est-ce que tu pourrais dire deux mots sur les étapes de la politisation de ces élèves? Et enfin, une dernière question que je soumets aussi à tout le monde par rapport à la marge de manœuvre, c'est en fait, quelle marge de manœuvre pour les acteurs nationaux et locaux, étant donné les exigences quantitatives des organisations internationales, qui sont source d'une fuite en avant et d'une course en avant? Hein, c'est-à-dire comment prendre du recul pour s'approprier et pour penser ses propres politiques éducatives quand on est sommé de scolariser le plus d'enfants possible à des échéances très courtes. Voilà. Comment on fait? Voilà. Merci.
On ouvre les questions et puis peut-être vous ferez du coup, parce qu'il y a peut-être des questions qui vont réagir.
Moi, j'ai une question concernant le... Et je pense qu'il y a un point commun entre les quatre interventions. C'est celui de... et en particulier de celle de Clotilde et de Avril. C'est celui du processus de la dépendance. Parce que je pense que c'est le même processus qui se répète. Et en vous écoutant, on se rend compte de la présence des interactions entre la globalisation et la revendication de certains éléments locaux. La question qui se pose, je pense, c'est la question de l'interdépendance et de la division. Edgar Morin, dans son analyse sur la mondialisation, il disait « Tout est désormais interdépendant, mais tout est en même temps séparé. » D'où l'importance de la systémique pour comprendre cette complexité. Et je pense qu'il faut penser ces questions en termes de causalité circulaire et pas en termes de causalité linéaire. Donc je voulais savoir si vous avez pensé cette articulation entre la globalisation et la division. Et merci à vous.
Vous avez d'autres questions ?
Et je vais rebondir, je vais le suivre pour votre film. Je me suis représentée Camille Alavagui, je travaille à l'UHSS, pas sur des questions éducatives, mais notamment sur la... Là, c'est des remarques autant pour vous que pour nous tous qui travaillons sur ce genre d'éléments. Articulation des échelles, oui, mais je trouve qu'il manquait dans les papiers, moins dans la manière dont ils ont été présentés, et il manque peut-être dans tous nos travaux, quelle conceptualisation de l'échelle ? Pareil, vous avez travaillé sur la réforme, l'action, enfin, je suis depuis la réforme, action publique, État. Il y a quand même une question qui se pose. Alors, elle se pose de manière particulière, je pense, dans le champ de l'éducation, mais. Et puis vous êtes pour certains à Bordeaux, donc c'est une question qui s'est posée là-bas. Mais comment utiliser, est-ce qu'on peut utiliser l'analyse des politiques publiques type Jovenel-Miller en contexte africain? Il y a Darmon, Emmanuel qui se sont prononcés sur la question, mais. Et le champ de l'éducation est particulier parce qu'il me semble que je ne connais pas grand-chose, mais c'est un espace social, une sphère d'activité sociale qui est précisément assez sectorialisée. Donc ça sous-entendrait qu'on peut le faire, mais quand même, pour dire quelques mots quand on évoque ce champ d'analyse sur ces terrains-là. Sur la question des acteurs, je vais aller dans le même sens que vous, Madame Barthélémy, c'est que... Vous avez attiré l'attention sur la nécessaire complexité et la déconstruction, et puis au nord, vous avez parlé, des fois il y a des questions d'experts, mais moi il me semble que dans mon terrain qu'il y a la décentralisation, que les experts ne sont pas d'accord, qui se tirent la bourre, et que c'est intéressant de savoir les consultants pour qui ils travaillent. Est-ce que dans leur trajectoire ils changent de bailleur? En décentralisation, il y a des gens qui font toute leur carrière banque mondiale, toute leur carrière à AFD. Moi, je suis face à des consultants qui, à travers leur carrière, défendent des points de vue personnels et circulent dans les organisations internationales parce qu'ils sont convaincus d'une bonne manière de faire
et ils vont la défendre avec des stratégies vraiment intéressantes. Et il n'y a plus aucun. Il y a des, enfin, je pense que dans le champ d'éducation, c'est pareil, mais de toute façon, il n'y a plus. Faut faire attention à aux configurations juridiques dans lesquelles les gens travaillent. Et la plupart du temps, c'est à travers les rapports, je ne sais pas, les documents qui sont élaborés. Ils sont élaborés dans le cadre de contrats de consultance. Et dans les contrats de consultance, il y a nécessairement des experts nationaux. Les relations de travail entre les experts internationaux et les experts dits nationaux sont intéressantes. Donc, à la mesure où on peut parler d'importation de modèles, si les documents concrètement ils sont élaborés par des gens de deux bords, et bon, enfin, j'ai essayé de travailler sur ces relations de travail, le partage concret du travail dans le cadre d'un contrat de consultance entre ceux qui pensent et ceux qui écrivent, ceux qui ont le droit d'écrire dans le rapport final ou pas. Et sur la dimension temporelle aussi, je pense que particulièrement c'est important sur la question de la coordination, c'est-à-dire que la coordination c'est un concept, c'est pas un concept, c'est une catégorie des acteurs sociaux, et l'exigence elle est de la formalisation de la coordination, mais il y a nécessairement une coordination, si on le prend au sens littéral, il y a nécessairement une coordination informelle avant. Ce qui a à investiguer, j'en voudrais, c'est l'exigence de formalisation, et bien la mesure dans laquelle ça oblige les acteurs à réorganiser leurs pratiques. Et tous ces gens-là, en général, ils sont en capital et ils mangent le dimanche ensemble, ils ont des formes de coordination, mais il y en a. Et du coup, une question, et peut-être que l'impact, c'est aussi une catégorie qu'on ne peut pas entendre, on ne peut pas mesurer l'impact. Enfin, dans quelle mesure la question scientifique de mesurer l'impact est
pas l'impact, c'est le poids relatif de chacun.
Oui, mais est-ce qu'il y a un cadre théorique qui permettrait scientifiquement de
je sais pas.
Je pense à Romain Bertrand, mais qui a posé cette question-là sur une réforme des modes électoraux en 2010. On ne pourra jamais investiguer la ce que j'ai dit d'abord pour poser une question, mais les bonnes raisons d'agir de tels décideurs politiques qui à la fin va prendre une décision qui va plutôt aller dans le sens d'une recommandation politique, est-ce qu'on va essayer de remonter à son arrière-grand-père ou à sa scolarisation c'est indéniable en fait, c'est peut-être une question indéniable. Et pour finir par une vraie question, vous avez tous parlé du fait que vous observiez des réunions, et moi j'ai aussi observé des réunions, je me demandais des réunions, des espaces de l'habilité ou de l'échange, quel cas théorique pour les observationnistes ?
C'était ça.
Interactionnisme, pas interactionnisme, qu'est-ce qui se passe dans ces réunions, indépendamment de qui est présent, qui prend la parole, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme cadre théorique pour mener ces moments de observation de ces réunions ?
Et moi j'ai une question pour l'implication des ONG est plutôt vue comme la porte d'entrée de l'Occident dans le milieu islamique. Est-ce que cela ne constitue pas un frein dans l'adoption du programme de modernisation des bases? Deuxième question. Donc, on voit que plutôt l'État est prudent dans l'appel qu'il fait pour le financement de ce fameux programme de l'État. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il soit à la croisée des chemins entre l'aide occidentale, guillemets, qui est perçue comme par les islamisants comme étant dangereuse, et les ONG islamiques, en tout cas des pays du Golfe, sont aussi perçus par le gouvernement comme étant une menace dans la mesure où il y a une contrepartie qu'il faut accepter, c'est-à-dire la réforme de l'islam sénégalais qui est plutôt contraire. Donc voilà.
Merci. Donc, une question de Stéphane.
Je vais être très très court. Je veux juste rebondir à ce que tu as dit, Pierre, à propos de la modernisation, mais ça sera une question pour je voudrais juste que vous précisiez qui est porteur de ce discours de modernisation en la guerre. Pour vous, ça a Donc, modernisation pour qui? Et pour l'État ou pour la sphère religieuse aussi. Je trouve que dans votre papier, vous parlez beaucoup de l'action de l'État, mais peu finalement de ce qui se passe au niveau religieux. Et à travers ça, en quoi est-ce une modernisation pour eux? C'est-à-dire quel élément ils mettent en avant?
Alors peut-être, donc, peut-être, voilà, peut-être la dernière, comme ça il leur restera un quart d'heure pour répondre.
Un peu naïve, j'ai beaucoup aimé, je trouve que le sujet est passionnant, je comprends très très bien la question que tu poses, mais est-ce que l'opposition organisation internationale, effectivement toutes mes maillons, il n'y a pas un moment où c'est une catégorie qui n'est pas vraiment analytique et qui marque un certain nombre de choses, s'il n'y a pas des maillons dans l'organisation internationale? Est-ce que dans les structures qui sont implantées au Mali, il n'y a pas aussi plein de gens qui sont dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest? Donc déjà, de déconstruire un petit peu cette opposition un peu frontale, un peu... Et puis, de se demander aussi dans quelle mesure, d'accord, il se passe un certain nombre de choses en réunion, mais après, il y a aussi la mise en place de ces politiques publiques. Et dans quelle mesure les acteurs de terrain, pour faire vite, mais il y a toute une série de personnes qui sont au Mali, mais qui ne peut pas mettre dans une catégorie homogène de maliens, et qui vont avoir des stratégies différenciées, et puis du coup, donner un contenu au quotidien différent à ces politiques publiques.
Merci. Ouais, comment on procède? Donc on fait dans l'ordre. Vous devez répondre.
Dans l'ordre. Oui, bah, du coup, sur cette question-là, oui, ça peut paraître un peu dual, un peu, parce que sinon on a vu le reste des partenaires techniques et financiers. J'ai un peu l'impression que c'est comme ça qu'ils le voient. Même moi, bah, j'étais dans des réunions où j'étais juste complètement en observation, mais j'étais mise du côté voilà, des partenaires techniques et financiers. Il y a aussi le fait que là, bon, j'étudie plus. Donc tout ce partenariat pour l'éducation où il y avait une dizaine de donc deux bailleurs de fonds, de partenaires techniques et financiers qui intervenaient, et en face il y avait souvent donc les acteurs, les représentants du militaire. Donc il y a même, je dirais encore plus, il y a dans les représentants du militaire, il y avait aussi des assistants techniques qui ne sont pas maliens et qui souvent bah, étaient mis là dans les réunions parce qu'ils connaissaient bien le projet, parce que c'est eux qui travaillaient sur le changement. Les maliens étaient assez peu présents finalement là-dedans. Et il y avait quand même ce rapport de force très important en défaveur des acteurs maliens, des acteurs du gouvernement. Là, je parle vraiment de l'aide publique au développement. Au niveau de la mise, ensuite, la mise sur place de la mise en œuvre des politiques, là, je ne pourrais pas dire, parce que je n'ai pas étudié ça plus en détail, même si oui, il y a apparemment quand même des lignes du côté, bon, bah, on accepte de façade, on accepte ça, parce qu'il y a quand même cette dépendance assez importante. On a besoin de ces fonds qui représentent une très grande partie du budget, quand même du budget de l'État, donc on accepte cette aide, et après, bon. Et il le disait de toute façon dans la réunion, on va accepter, il le disait clairement, on accepte ce que vous dites de faire, on n'y arrivera pas, on ne pourra pas le faire, concrètement. Mais bon, on le met quand même dessus, parce qu'il faut le mettre pour que les négociations avancent. Après, voilà, après au niveau de ce partenariat, il y avait aussi beaucoup de choses informelles, effectivement. Ça s'est de plus en plus institutionnalisé, ce partenariat-là, dans le cadre du Mali. Je pense que c'est pas, il n'y a pas que au Mali d'ailleurs que ça se fait. Et bien sûr, je voyais aussi, et je l'ai lu, on me l'a dit aussi, qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient du côté informel avant les réunions, après les réunions, où ces réunions-là souvent étaient bon. Il n'y avait pas forcément les personnes les plus importantes côté malien ou côté partenaire pour vraiment prendre ces décisions qui étaient souvent prises de façon toujours quand même un peu informelle.
Et, oui, mais de ça montre bien en plus qu'il y a pu y avoir une façade affichée au moment de prendre des décisions formelles, mais qu'après, concrètement, les jeux de pouvoir et qui décide de l'implémentation du public,
c'est... Oui, c'est souvent, effectivement, souvent en dehors de ce cadre. Oui, je suis d'accord. Oui. Après, quand on parlait aussi par rapport à ces différences avec l'Afrique de l'Est, que moi je ne connais pas, j'ai pu lire aussi pas mal. Bon, là, j'essaie de faire un peu une. De comparer les deux pays d'Afrique de l'Ouest, parce que je suis plus là-dessus, où effectivement le Mali, bah c'est le cas du Mali qui n'est peut-être pas forcément généralisable non plus, c'est le cas de l'éducation, où là, il y a sa faible marge de manœuvre, ce faible marge de façade, on va dire, parce qu'il y a tout ce contexte de, voilà, on a besoin de financement, on n'a pas forcément les experts qu'il faut pour planifier à long terme, donc bah, on accepte quand même beaucoup ce qu'on nous demande au moment de façade pour pouvoir avoir de l'aide. Il y avait eu un cas avéré pour les projets fast track où il y avait des demandes, il faut remplir des demandes d'aide, où là complètement on avait rempli le papier parce qu'il fallait selon certains cadres et que les objectifs n'étaient pas les mêmes que le programme décennal, mais on l'avait fait quand même, et ça c'est assez avéré. Donc oui, c'est le cas spécifique du Mali, je ne peux pas généraliser ailleurs. Et voilà.
Merci. Je vais revenir sur le concept de modernisation puisque ça couvre un peu l'ensemble des questions. Le terme modernisation des Dahara, donc on parle modernisation des Dahara, donc tout un phénomène, tout un processus de modernisation, on parle de Dahara modernes qui sont déjà construites, etc. Ça fait référence quand on écoute à la fois les discours au niveau du ministère et les discours au niveau des maîtres coraniques, à la fois à la réhabilitation de ces écoles, c'est-à-dire tout simplement sur le plan pratique, un appui financier avec des tables et des bancs et puis un abri quoi. Et il y a l'autre aspect qui est un peu plus intéressant qui là fait référence à l'enseignement de la langue arabe de la langue française. Ça a été surtout appuyé par des ONG intermédiaires justement, c'est-à-dire donc moi j'ai travaillé sur la banlieue de Dakar, à Guédiawaye, et sur le département de Louga, où là, différentes ONG, selon leur région, travaillent en collaboration avec des maîtres coraniques. Je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié. C'est par ce biais-là qu'ils ont mis en place l'enseignement de la langue française dans certains Dahara choisis. Donc ce qui est intéressant, il faut que je me concentre, que je vois comment ça s'est passé au tout début de ce programme, puisqu'il y a eu une forme d'appel d'offres, en fait, on va dire, au niveau des maîtres coraniques. Donc certains connaissaient certains coordinateurs d'ONG, etc. D'autres ont entendu parler de cette réforme, donc se sont dit « Ah, enfin voilà, il y a un appui financier à ce niveau-là, donc c'est intéressant ». Et par ce biais-là, l'introduction de la langue française a été mise en place par le biais de des éducateurs volontaires qui ont été embauchés même par l'ONG en question et qui enseignent donc par 16 heures par semaine la langue française pour seulement 40 élèves coraniques par Dahara, sachant que des Dahara peuvent... Il peut y avoir une vingtaine d'élèves coraniques jusqu'à 120, 250 élèves, quoi. Donc 40 Dahara ont été choisis seulement et c'est ces enfants-là qui ont l'enseignement français. Voilà. Sur la question religieuse aussi, que signifie aussi moderniser les Dahara pour certains maîtres coraniques? Et puis j'ai pas vu la question des grands chefs religieux confrériques au Sénégal parce que j'ai pas eu le temps, quoi. Donc c'est une question qu'il faudra que je pousse. Mais au niveau des Sering Dahara ou des Tiardo en foulard. À chaque fois ils me disaient, certains qui étaient contre justement l'enseignement de la langue française, ils me disaient, ça veut dire quoi aussi moderniser? Pourquoi ça veut dire, est-ce qu'il faut moderniser l'islam? Ou voilà, que signifie ce concept-là, quoi? Pourquoi on moderniserait nos Dahara, sachant que ça fait des siècles, enfin, des centaines d'années qu'on enseigne de cette façon, et voilà, quoi.
Si je peux me permettre, c'est pas vrai. Ça fait pas des centaines d'années qu'on enseigne de la même façon. C'est cette idée qu'il y aurait une école coranique traditionnelle qui existerait depuis longtemps et puis que maintenant on changerait. En fait, ça n'existe pas. Donc je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport à quelle histoire de ces écoles coraniques ils pensent la modernisation.
Ouais.
Et ils emploient ce terme.
Oui,
ils disent moderniser les chefs religieux.
Parce que ça a été dans le discours politique public depuis vraiment les années 90, et donc ça s'est vraiment réapproprié sur toutes les couches de la population, quoi. Donc tout le monde en entend parler. Voilà.
Et le mot en wolof,
je ne connais pas.
C'est intéressant de voir s'il y a un mot.
Quel est le mot, s'il y en a plusieurs et qu'on traduit par modernisation en français.
Moi, je vois, pour parler très rapidement de l'Éthiopie, ils ont pris un mot amharique qui était utilisé avant. Et c'est le mot qui est utilisé pour la croissance des plantes. Hein, ce qui veut dire quand on dit un paysan en développement, le MAT, pour lui, le sens de ce mot-là, c'est pas le sens des institutions internationales. Alors, c'est un sens beaucoup plus riche, finalement. Enfin, y a le sens que leur disent les gens des ONG, mais il y a en plus le vieux sens éthiopien, mais qui est utilisé, qu'on voit dans des documents qu'en 150 ans. Ça veut dire prospérer, ça veut dire...
Donc c'est important de voir ça. À la fois le mot en wolof et le mot en arabe aussi.
Voilà,
parce que la réforme en arabe, il y a plusieurs mots pour le dire. Et ça,
il peut ne pas exister.
Oui, il peut ne pas exister.
Le wolof s'est approprié à beaucoup de mots français.
Mais s'il n'existe pas, c'est intéressant. En soi.
Voilà, il faut chercher, il faut creuser ça.
Alors aussi, sur la question... Donc, pour revenir sur le plan religieux, et j'ai remarqué aussi, à la fois dans des observations et dans des enquêtes, que déjà le statut du maître coranique dans la société sénégalaise est très important, de la naissance jusqu'à la mort, quoi. Ces Serigne Daara sont vraiment l'interface. Entre des ONG qui sont eux, l'intermédiaire avec des bailleurs de fonds, mais aussi avec les familles, donc au plus bas. C'est-à-dire il y a plusieurs... mais en même temps, c'est mis en place de par des ONG. Donc ça fait, c'est l'interdépendance circulaire aussi. Et donc, du coup, ils ont mis en place des argumentaires religieux pour l'introduction du français, justement, dans ces écoles-là, auprès des familles, parce que bien sûr, il y a une forte réticence dans de grands foyers religieux du Sénégal, et donc la modernisation passe par une sensibilisation auprès des familles et des parents d'élèves, quoi. Donc, et ces Serigne Daara ont été vraiment de l'intermédiaire pour la mise en place de ce processus. Mais ces Serigne Daara, il faut savoir qu'ils sont ouverts aussi à cette réforme, sachant que d'autres ne le sont pas aussi. Enfin, voilà, il y a tout un... des échanges, tout est lié, quoi.
À Touba, il n'y a pas d'école française. À Touba.
Non, à Touba, il n'y a pas d'école. Alors, Touba, c'est particulier. Il n'y a pas d'école française. L'école la plus proche est Mbacké. Et tous les élèves donc, vont à Mbacké pour étudier. Quoi. Moi, j'ai choisi Louga. J'ai choisi le département de Louga, qui a un fort foyer religieux depuis des années, depuis historiquement. Et là aussi, il y a des poches de résistance. Et je me concentre aussi sur la mise en place d'écoles franco-arabes publiques et la perception en fait de ces écoles par rapport aux populations, et voir aussi des stratégies. Donc pourquoi ces familles, les familles, quel type d'enseignement préfèrent-elles? Est-ce que c'est des écoles franco-arabes publiques parce qu'il y a un enseignement mixte bilingue, ou alors des écoles coraniques pures, traditionnelles on va dire. Et puis aussi, j'ai choisi, j'y suis pas encore allée, mais ce sera pour la prochaine fois, le département de Kaffrine, où là, le taux de scolarisation est très faible, et il y a des vraies poches aussi de résistance, et où la pauvreté, c'est différent d'exemple. Voilà.
Merci. Le cadre, je veux préciser sur l'idéologie. Le cadre idéologique jouait effectivement un rôle très structurant dans tout le processus d'institutionnalisation du mouvement des étudiants. Et il y a deux choses qui jouent un rôle, c'est la circulation des idées entre les étudiants qui étaient en France et dans d'autres pays, donc notamment en RSS, donc les membres de la FIANF. Et puis, une autre source d'idéologie, c'était les ambassades qui étaient implantées à Niamey, qui distribuaient les livres, différents livres de Marx, de Lénine, d'autres livres d'orientation marxiste, ce qui justement nourrissait cette tentation, cette plusieurs tendances. Donc il y avait deux choses alors. C'était la scission au sein de la FIANF qui ont commencé à partir des années 60. Pour les tendances maoïstes, pro-soviétiques et pro-albanaises, c'était les principales tendances. Et puis, alors, ce qui nourrissait ces différentes divisions idéologiques, c'était les ambassades qui appuyait chaque ambassade, appuyait ses propres idées. Ce qui s'est passé au Niger, c'est très intéressant, parce qu'on aurait pu imaginer l'éclatement du mouvement, justement, à cause de ces divergences de tendances, mais ce n'était pas le cas, parce que le cercle dirigeant était dominé par les personnes d'orientation pro-soviétique, et qui ont pu imposer à travers... Il y avait des luttes au sein de... entre les différentes luttes internes, on peut dire, au sein du cercle des régions, mais c'était vraiment grâce à leur politique de direction qui ont pu imposer la tendance pro-soviétique. Et ce qui est intéressant, c'est le rôle joué par l'idéologie dans la façon dont le mouvement a pu garder son unité et se structurer. Sur le campus universitaire, il existait les comités d'analyse qui étaient responsables pour assurer la formation militante. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est que de ne pas s'approprier de la lecture militante, ça signifiait l'exclusion des cercles de sociabilité. Et de ce point de vue, ça nourrissait encore une fois, ça promouvait encore une fois à la fois, l'importation de tendances pro-soviétiques, mais d'autre part, ça consolidait le mouvement. Voilà. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ça.
Voilà. Ok, alors je voulais remercier pour l'ensemble de vos commentaires. D'abord, je voudrais revenir sur le cadrage théorique pour analyser ces espaces de réunion, ces espaces de socialisation, quand tu viens à des colloques et tu vois tous ces gens interagir. Moi, je pense qu'il faut piocher en sociologie, en anthropo, enfin, il n'y a pas de... Il ne faut pas se limiter à sa discipline. Et moi, dans mon cas personnel, je fais surtout attention aux gens qui sont absents, plus qu'aux gens qui sont présents. Par exemple, il y a quelque chose que je n'ai pas du tout abordé dans ma présentation, que j'ai un peu abordé dans le papier de mémoire. C'est en fait, au niveau est-africain, en fait, ils essayent de mettre en place une sorte de processus de Bologne est-africain, à travers, sous l'East African Community, qui pourrait s'apparenter à notre Union Européenne, il y a ce qu'on appelle l'Inter-University Council for East Africa, qui est donc une sorte de processus de Bologne. Et en fait, ils essayent donc d'harmoniser les réformes ministérielles, enfin bref. Et donc, ils créent des standards. Et donc, je vais à ces réunions-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que durant ces réunions, les grandes universités sont absentes. Donc les Makerere, Dar es Salaam, Nairobi ne sont pas représentés par leur vice-chancellor, ils sont représentés par membres du staff. Enfin, ils ont envoyé des petits gens, enfin, des gens à la différence en fait, des petites universités privées ou des nouvelles universités publiques. Donc enfin, je trouve que, et y a, enfin, autre grande catégorie qui est absente, c'est l'État. Que ce soit les ministres ou des représentants des ministères. Donc je pense qu'il faut accentuer aussi, ne pas oublier qui est-ce qui est absent durant ces réunions. Ensuite, sur le mesurer le poids des contraintes internationales et pratiques locales, est-ce qu'il faut mesurer? Enfin, moi je pense pas du tout.
Oui, non, enfin oui, bon, allez-y.
Non, je pense
que... c'est pas mesurer, mais c'est le... c'est de voir comment ça fonctionne, ouais, très concrètement, quoi.
Bah en fait, on n'arrivera jamais à...
Quand mesurer, c'est être plus concret, en fait. Voilà,
ouais, ça. Bon, ça, je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense que ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de repérer les espaces, les acteurs. Enfin, on n'arrivera jamais à rentrer... Il n'y a jamais une pièce où ça va se décider à un moment T. Et si ça existe, on n'y sera jamais. Enfin, je pense que ça, les politiques publiques l'ont bien montré. Je pense à la théorie du garbage can, qui est la théorie de la poubelle, où on dit qu'en fait, on va prendre finalement un modèle qui a été jeté et finalement, on va adopter celui-là. Enfin, je pense qu'il faut rester dans cette idée, quoi, de et qui est un peu frustrante, hein. Enfin, clairement, je pense.
Mais je pourrais agir, je pensais à quelque chose de très particulier, parce que quand on a participé à l'élaboration de programmes de recherche, ce qui a été mon cas, c'est qu'on voit en fait comment un texte est élaboré, c'est-à-dire comment une réforme est produite, et maintenant aujourd'hui avec les mails, les échanges et les réunions, voir quels sont les mots qui sont choisis, qui les a insérés. Donc mon idée c'était mesurer dans le sens prendre un cas très particulier, je ne sais pas, instauration du LMD ou autre chose, et essayer de reconstituer, non pas de partir du texte final existant, mais essayer de reconstituer le processus d'élaboration du texte. Et ça a été fait par les historiens au niveau des projets de loi. Comment est-ce qu'on... quoi donc ? Oui, maintenant c'est tout à fait possible. C'est pour ça.
Les corrections des uns et des autres. Mais là, l'anthropologie, elle a quand même une carte à jouer que les autres disciplines ne peuvent pas.
Bien sûr.
Voilà. Donc mon idée de mesurer, c'était pas de dire qui est le plus fort, c'était de voir la fabrication des réformes, en fait. C'était plus cette idée-là.
Et la dernière sur ce quoi je voulais rebondir, et je pense que c'était super important, c'est la nouveauté des années 2000. Que vous avez posé comme question. Moi, je dirais que c'est le retour de l'État, en fait. Pense que, enfin, moi, je m'inscris beaucoup dans une critique de tout ce qu'on appelle privatisation des universités. Je penserais plutôt à l'ouvrage de Mamdani qui a écrit sur Makerere, et qui est donc du coup un cas d'étude. Et en fait, ce qu'on voit à partir des années 2000 est fort, en fait, de l'exemple asiatique, grossièrement, les bailleurs internationaux, ils ont dit dans les années 90, il faut mettre le paquet sur l'enseignement primaire. Donc on a eu ces politiques d'enseignement primaire universel. Okay. Et en fait, le modèle asiatique, ils ont accentué beaucoup sur tout ce qui est sciences et technologies. Et donc en fait, depuis 2000, on a ce nouveau discours de la Banque mondiale et qui se traduit par des politiques gouvernementales concrètes. Où on appelle l'État à investir de plus en plus dans les sciences et dans la technologie. En fait, ce qui se concrétise au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, par ce qu'on appelle des visions, des gros programmes de développement nationaux, vision 2030, vision 2025, en fait, avec des objectifs chiffrés. Et en fait, concrètement pour l'université, c'est changer la balance entre étudiants en sciences sociales et étudiants en sciences. Parce qu'en fait, il y a 80% des gens qui sont en sciences sociales, parce qu'en sciences sociales, ça coûte moins cher, parce qu'ils sont mieux préparés, enfin, on va dire qu'ils sont moins bien préparés dans le secondaire pour aller en sciences, voilà. Et donc, ouais, voilà, moi, je dirais que l'un des gros changements des années 2000, c'est le retour de l'État, et que je pense qu'il faut que ça reste, comme dit Bourdieu, le point de vue des points de vue. Voilà.
À l'UHSS, Cédric s'est monté un groupe de travail qui s'appelle ELITAF sur les circulations des étudiants, surtout dans les cliniques d'histoire. Et si je me, ça peut intéresser certains.
Oui, mais je fais partie de ce groupe.
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on peut aller déjeuner.
On peut aller
à la pause déjeuner au quatrième étage. Donc
apparemment, il y a des clés qui ont été installées. Donc,
suivre
les clés, de suivre les gens.
Et merci pour votre attention. Encore une fois, merci aux communicants et à Pascal Barthélemy. Voilà.
Moi, je suis vraiment désolée d'être arrivée en retard. Hein.
T'as raté 2-3 minutes d'Olivier Proust.
Bon, ça va, c'est
tout. Tu vas nous relire ton texte au début.
Ça a été enregistré à partir de 2.